Et si nous faisions le bilan de l'année? Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un équilibrage alimentaire après du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Et cette semaine, je vais vous parler de mes défis, je vais vous parler de mon bilan de l'année. Bah oui, parce que c'est le dernier mercredi de l'année. Donc, j'en profite, hein, je garde le micro pour moi tout seul, pas d'invité, mais vos questions. Et avant vos questions, mon bilan. Voilà, c'est le format de cet épisode. C'est un épisode sur le bilan et il n'y a pas que mon bilan à moi. Je vais vous expliquer une méthode pour faire votre bilan. C'est la méthode que j'ai utilisée pour faire mon bilan de l'année. Et donc je vais d'abord vous l'expliquer, hein, pourquoi et comment faire ce bilan, et puis ensuite je ferai mon bilan et ensuite je répondrai à vos questions. Alors, avant ça quand même, on va faire une petite pause publicitaire, hein, maintenant vous savez le programme, vous savez que la publicité c'est important pour moi, il y en a eu plus cette année parce que c'est ce qui me permet de financer ma vie de sportif, de podcasteur sportif, devenir moi aussi champion du monde de mon monde, donc la publicité est vraiment importante, on fait une petite pause publicitaire et on se retrouve tout de suite après pour le bilan. Allez, c'est parti.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc nous allons commencer par le bilan et comment faire votre propre bilan. Oui, comment faire votre propre bilan. C'est important de faire son propre bilan parce que ben, ça permet de savoir d'où on vient, où on va aller, où on veut aller et ce qui va nous faire du bien. Et ça, c'est vraiment un élément important. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour faire un bilan des performances, des nombres de kilomètres. Je l'ai même pas regardé précisément. Je vais vous donner un chiffre à peu près approximatif. J'ai pas regardé mes records, mon temps à la minute ou quoi que ce soit. Non, moi, ce qui m'a intéressé, en fait, c'est de regarder ce qui m'a fait du bien dans les 12 mois qui viennent de passer. Voilà, c'est tout simplement ça. Pourquoi? Parce que notre temps est trop précieux pour le gâcher. Et en fait, il faut le remplir avec des activités et des personnes qui nous nourrissent le plus, qui nous font du bien. Voilà. Ce serait un petit peu l'idée de dire, je vais faire une liste de ce qui me fait du bien et une liste de ce qui me fait, de ce qui crée de la merde, on va dire, hein, grosso modo. Et puis, on va faire la liste des choses à faire plus et puis des choses à ne plus faire. Hein, la note to-do list, si on préfère. C'est un petit peu le principe de mon bilan, comment je le fais. Alors maintenant, comment on va faire ce bilan? Bon, bah déjà, on va commencer par lister ses objectifs de départ. Quels étaient vos objectifs de départ? Si vous avez fait, par exemple, en début d'année, vous avez dit, je vais courir telle ou telle course. Donc, on fait un bilan, voilà, tout simplement, de ces objectifs de départ, avec une colonne réussite, une colonne échec, et puis surtout, une colonne, qu'est-ce que j'ai appris de mes réussites comme de mes échecs. Et là, je vous en ai souvent parlé dans la définition des objectifs. Souvent, on définit l'objectif de faire telle ou telle chose, et on le définit mal, et là, c'est important de faire cette petite colonne, de se dire bah, finalement, qu'est-ce que j'ai appris? Tant de mes réussites que de mes échecs. Et en fait, on peut faire ça pour ces objectifs qu'on avait au départ de l'année, hein, qu'on a fixés. Peut-être que là, vous avez fixé vos objectifs de 2023. Et ben pour 2022, vous avez fixé des objectifs. Et puis, vous faites pareil aussi pour les objectifs qui sont ajoutés au fur et à mesure des mois. Parce que probablement, vous ajoutez des objectifs. Donc déjà, ça, c'est un premier point. C'est que quand vous avez fait ça, vous avez une belle liste de ce que vous avez réussi selon vous, de ce que vous avez raté selon vous, et en fait aussi de ce que vous avez appris. Hein, voilà. Et puis regardez pourquoi vous avez réussi, pourquoi vous avez raté. Et puis cette question, cette colonne du milieu plutôt, elle a en fait une vertu, c'est que peut-être elle va vous faire déplacer certains échecs dans les réussites. Ça, j'en suis certain. Ensuite, prenez chaque mois, chaque semaine, si vous voulez, hein, vous pouvez le faire. Je vais vous dire presque chaque séance, mais vous allez comprendre le principe. Et vous allez lister, en fait, les événements, les courses, les entraînements, les sports, les disciplines, les lieux visités, les moments passés, les personnes rencontrées. Et en fait, bah là aussi, vous allez noter. Alors, je ne vous dis pas de faire des colonnes ou quoi que ce soit, mais vous allez essayer de vous demander pour chaque semaine et chaque mois, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui finalement a été bof, qu'est-ce que vous avez détesté, et donc qu'est-ce que vous aimeriez recommencer et qu'est-ce que vous aimeriez ne pas recommencer du tout. Voilà, c'est le but en fait de cet exercice-là, c'est de regarder tout simplement dans ce que vous avez fait, dans les entraînements, dans les personnes, dans les sports, dans les lieux, dans les endroits où vous êtes allé, ce que vous avez adoré et ce que vous avez détesté. Et puis vous dire, et ben à partir de là, ce que j'ai aimé, je vais le faire plus, ce que j'ai détesté, ben je vais le faire moins possible. Là vraiment, 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 c'est, je trouve, un exercice que l'on voit pas assez souvent, c'est ce qui vous permet en fait de définir une to-do list et une note to-do list finalement, une liste d'affaires et une liste de ne à plus faire surtout. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ça permet d'aborder une notion de réservoir. Réservoir, en fait, de confiance, et un réservoir de d'échecs, de problématiques, de choses qui, en fait, nous plombent la confiance. Et l'idée, en fait, c'est qu'on a deux réservoirs. On a un réservoir qui se remplit avec les réussites, et on a un réservoir qui va se remplir avec les échecs. Voilà. On pourrait dire qu'on a un réservoir à confiance, à bien-être, qui se remplit de nos réussites, de ce qu'on a réussi, des bons moments passés aussi. Et puis, les échecs viennent remplir un autre réservoir. Et en fait, si on fait que des trucs qu'on déteste, si on regarde que les échecs, que sur quoi on n'a pas réussi, sur quoi on n'a pas avancé, et ben, en fait, on remplit notre réservoir à merde, j'ai envie de dire, on le remplit. Alors que ce qui va nous permettre de vraiment avancer, c'est le réservoir à bien-être et à confiance. Et le but, c'est que le réservoir de confiance soit toujours plein et que quand le réservoir des échecs, le réservoir à toutes les merdes et tout qu'on peut avoir se remplit, la question c'est de se demander comment est-ce qu'on peut avoir un réservoir de confiance qui soit suffisamment rempli pour faire face. Quels sont les niveaux des réservoirs et comment on arrive à ne pas remplir trop celui, j'ai envie de dire, qui nous plombe le moral et comment on arrive à remplir celui qui nous fait du bien. Et ça, c'est vraiment un exercice qui est important, je pense, dans l'année à faire. C'est de regarder ces deux réservoirs et de se dire comment je fais pour remplir le bon réservoir. Comment je m'aide vraiment en remplissant le bon réservoir. Et ça, c'est un élément qui est important. Et c'est pour ça que je vous ai fait faire cet exercice-là de lister finalement les bons moments et puis regarder ce qui nous plombe et ce qu'on n'aime vraiment pas du tout. C'est que vous allez regarder comme ça. Qu'est-ce que vous devez faire sur l'année qui vient, finalement, pour gérer leur niveau au mieux? C'est-à-dire répéter ce qui vous fait le plus de bien, éviter ce qui vous en fait le moins. Voilà, tout simplement. C'est vraiment l'exercice comme ça. Et le bilan, pour moi, s'arrête là. Pourquoi? Parce que quand vous avez fait un bilan comme ça, vous avez regardé ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, est-ce que vous avez réussi, est-ce que vous avez eu des échecs, comment vous avez avancé, qu'est-ce que vous avez appris. Pourquoi ça a été des échecs? Pourquoi ça a été des réussites? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous devez recommencer? Et qu'est-ce que vous devez éviter? Et à partir de là, vous avez fait votre bilan de l'année. Et c'est une manière pour moi de faire un bilan qui est beaucoup plus pratique et qui est beaucoup plus positive que de regarder des bilans chiffrés, de se comparer aux chiffres, de regarder le nombre de médailles qu'on a pu faire, le nombre de courses, de regarder si on a battu son record ou quoi que ce soit. Même si dans les réussites, battre un record peut faire partie de la liste des réussites, bien entendu, mais il n'y a pas que ça, et c'est vraiment pour ça que je voulais faire de cette manière-là. Bon, et bien maintenant que cet exercice est fait, et vous avez compris le principe, grosso modo, des exercices à faire, ben moi j'ai pris ce principe, ce bilan-là, comme ça, et je l'ai fait pour moi. Alors, déjà, je vais commencer par mes objectifs de départ. Au départ, c'était courir tous les jours. Premier objectif, celui-ci, il est réussi, j'ai couru tous les jours de l'année 2022. Mon deuxième objectif, c'était de faire 2022 km sur l'année. Vous savez, ça c'est un objectif sur Strava. Ce qui était un objectif qui est pour moi pas si facile que ça, parce que les années précédentes, je l'avais raté. Les années précédentes, je n'avais pas couru plus de 2000 km. J'en ai même couru autour de 1400-1500. Et celui-ci, il est réussi. Voilà, donc là je suis content, il est réussi. Et puis j'avais aussi placé un petit peu dans les derniers jours de 2021, j'avais dit que j'allais attaquer l'année 2022 par le 496 challenge. Donc, je vous rappelle le principe, c'est courir 1 km le 1, 2 km le 2, 3 km le 3, et ainsi de suite jusqu'au 31. Et à la fin, ça fait 496 km. Bon, dans les faits, j'en ai même fait 509. Et là, c'était un défi réussi. Vraiment, là, très content. Décidé un peu à la dernière minute, hein, parce que même je crois que le 30, je n'étais pas encore certain à 100% de le faire. Je l'avais vraiment en tête. Et puis le premier, je me suis allé, là, ce coup-là, c'est parti, et on va aller le plus loin possible. J'avais un autre objectif qui était placé au départ, c'est de faire un Gravelman. J'avais même créé le podcast, Kilomètre 150. Bah là, j'ai pas fait beaucoup de vélo, j'ai pas fait d'épisode du podcast, j'ai pas avancé du tout. À ce moment-là, là, au moment où je vous parle, mais vous allez écouter jusqu'à la fin et vous allez comprendre que ce projet est maintenant bougé très vite. Ouais, je commence à faire du teaser, un teasing, mais vraiment, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, c'est un échec. Donc vraiment, sur ces objectifs de départ que j'avais placés, bon, bah voilà, il y a cet échec-là du Gravelman et qui est un échec, en fait, où je peux l'expliquer assez facilement, c'est que je n'avais pas de vélo au point de départ, je n'ai pas eu trouvé le moyen de prendre le vélo comme je voulais, etc. Et puis quand j'ai commencé l'entraînement au mois de mars, bon, bah finalement, je me disais, oui, mais tant que t'as pas le vélo, tant que t'as pas... Donc les problèmes techniques, on va dire, grosso modo, hein, de on va dire, problèmes matériels, en fait, est venu me happer complètement. Et au lieu de me dire je peux quand même rouler avec le vélo actuel que j'ai, même si c'est pas le vélo avec lequel je pourrais faire un gravelman ou quoi que ce soit, et bah je me suis pris un peu cette excuse là, faut le dire, de dire bah j'ai pas le vélo, donc ça sert à rien que je roule, alors qu'en fait dans tous les cas ça m'aurait servi pour faire de l'entraînement croisé, pour travailler d'autres parties du corps, pour alléger peut-être la pression sur les jambes quand j'avais des douleurs, des choses comme ça. Voilà, c'est noté, c'est là. C'est fait, je peux rien y faire, je peux rien changer là-dessus. Sur cette année 2022, je peux rien changer. Donc je le laisse là, et bam, il est là, dans un coin. Les autres objectifs, il y en a un qui s'est rajouté, c'est le 24 heures. Bon bah là, je vous fais pas de dessin, c'est réussi. Et puis, le dernier objectif que j'ai placé à la fin de l'année, c'est la recomposition corporelle. Je l'avais placé sur les 2 mois de l'année, novembre-décembre. Bon, c'est un échec, d'une part parce que je m'ai donné un délai trop court. Le principe de la recomposition corporelle, c'est de dire je veux prendre du muscle, perdre du gras et développer du muscle. Bon, ça prend un petit peu de temps quand même. Et puis surtout, c'est qu'il faut prendre des nouvelles habitudes, les mettre en place. Les nouvelles habitudes, c'est notamment celle d'aller à la salle de sport ou chez soi, soulever des haltères, trouver un programme, etc. Alors, j'en ai fait un petit peu. Je suis presque allé toutes les semaines à la salle de sport, mais j'ai fait qu'une séance par semaine, là où j'aurais voulu en faire 2 à 3. Et donc là, forcément... ça pouvait pas marcher, puis c'était trop court aussi, hein, ça je m'en suis rendu compte, c'était un délai qui était un peu court, parce que pour vraiment développer, faire cette inversion entre la partie prise de muscle, perte de gras, et développer des habitudes, des nouvelles compétences sur les machines, prendre du muscle un peu visible, bon bah 2 mois c'était un petit peu court, mais, le tout bon truc, c'est que des nouvelles habitudes se mettent en place, notamment celle d'aller à la salle de sport. Je suis en train de caler un petit peu mieux la manière de le faire. Par exemple, l'autre jour, j'y suis allé en courant. Donc, je suis allé à la salle de sport en courant. J'ai fait toute la partie haut du corps, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus de travailler pour le moment. C'est vraiment la partie haut du corps, même si après, je fais aussi bas du corps, etc., mais dans d'autres circonstances. Et puis, je suis rentré à la maison en courant aussi. Ça me fait une bonne séance qui me permet de courir et puis de travailler musculairement. Ça, c'est un bon point et que je vais pouvoir refaire régulièrement. Et puis, j'irai une autre fois ou deux, par exemple en vélo. Ce que j'ai aimé dans cette année maintenant, c'est vraiment, vraiment avoir réussi ces 2 challenges qui étaient dans le domaine de l'ultra, en fait. Le 496 challenge, c'est vraiment un défi qui est vraiment fait pour, à la base, qui est vraiment dans l'ultra. La dernière semaine fait 175 km. Enfin voilà, ça fait partie des grosses semaines qui sont. J'en avais parlé dans le conseil de samedi encore dernier. Donc c'est vraiment un gros challenge ultra. Et puis 24 heures m'a permis de passer d'une part la barre des 100 km. En fait déjà elle m'a permis de faire plus long que ce que j'ai fait le plus long de ma vie avant jusqu'à maintenant, qui était le marathon. Et là, je l'ai fait x3, puisque j'ai fait 136 km. Donc, j'ai passé la barre du marathon, qui était déjà pour moi le premier truc. Donc, passer dans la barrière de l'ultra, et puis passer au-dessus des 100 km, et puis faire devenir un circadien en courant 24 heures, découvrir cette formidable ambiance du 24 heures. Et donc là, je suis vraiment content, parce que ça fait 2 challenges réussis dans l'ultra, là où je pensais vraiment pas être capable d'en faire autant. Ça, c'est un truc qui est certain, c'est qu'au départ de l'année, je pensais pas être capable d'en faire autant. J'ai couru tous les jours, et... j'ai fait un bilan de la première année de course là en juillet. Donc il y avait une FAQ, il y avait un peu le principe, c'est comme le 24 heures, hein, il y a eu toutes les explications, il y a eu FAQ, il y a eu tout ça. Donc là-dessus, je ne vais pas revenir en détail sur tous les éléments. Je vous renvoie à tous les anciens épisodes que j'ai fait sur ce sujet. Mais quand même, c'est ma plus grosse année en volume, ça c'est sûr. Et je l'avais dit sur le bilan de courir tous les jours, c'est que je m'étais rendu compte que sur une année qui n'était pas l'année civile, mais l'année glissante, hein, du 26 juillet au 26 juillet suivant, j'avais couru déjà plus de 2000 km. Ça, je m'étais rendu compte hein, que j'avais fait un volume qui était supérieur à ce que je faisais d'habitude. Et sur cette année, vraiment là, 2022 complète à quelques jours près, j'ai fait 2400, j'ai pas fait 2500 km, mais je suis dans cette zone-là en fait. Ce qui était pour moi jamais arrivé, hein, parce qu'en général, je faisais autour de 1200, 1300, 1400, 1500, et puis un petit peu dans cette zone-là. Et notamment, il y a un point qui est important, c'est que je n'ai eu aucune blessure de mandat d'arrêt. La preuve, c'est que j'ai couru tous les jours. Même au lendemain du 24 heures, j'avais fait un petit peu une alternance de marche et un peu de course. Bon, surtout de la marche plus que de la course. Parce que j'avais quelques douleurs, mais qui sont parties en 3 ou 4 jours. Les courbatures sont parties très vite, mais les quelques douleurs qui ressemblent un peu à de la périostite sont parties à la fin de la semaine, je les avais plus. Et je n'ai pas été malade ou quoi que ce soit, donc je n'ai eu aucun blessure, aucune maladie demandant un arrêt. Et ça, c'est vraiment important, la maladie, bon, prendre un virus et tout, c'est compliqué, il y a des fois, on peut pas les éviter. Mais la blessure, en fait, ça vient vraiment de notre gestion à nous. Gérer le stress mécanique, gérer la fatigue, gérer l'énergie que l'on a, etc. Ça dépend vraiment de nous. Et les autres années, en fait, j'avais toujours des périodes où je faisais pas grand-chose, où j'avais eu des petites... Par exemple, je me rappelle, après confinement, j'avais fait des accélérations, alors que j'ai pas couru pendant 2 ou 3 mois, je fais des accélérations. Bon, forcément, j'avais mal au mollet, et bam, j'avais pas pu courir pendant 3 semaines. Voilà, bon. Le coup du genou, j'étais obligé d'être opéré du genou, c'était un peu pas de chance, hein, franchement. Mais depuis cette grosse pause hein, qui était l'an dernier, ça avait fait quand même des mois de pause, il y a rééducation et tout, qui m'avait amené dans la situation de me dire il faut que je bouge plus et que je fasse attention à la sédentarité. Donc c'est là où j'avais décidé de courir après tous les jours à partir du mois de juillet. Depuis, en fait, j'ai vraiment couru tous les jours et je n'ai pas eu de pause. Alors des fois j'ai couru à miles, des fois j'en ai couru beaucoup plus. Mais j'ai couru tous les jours et ça, c'est vraiment, vraiment ce que j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé aussi cette année mes levées de soleil à partir du printemps. Et je dois vous dire, pour moi, il y a un truc sur lequel je peux rien maîtriser, c'est le temps et la longueur des journées. Mais en fait, je n'aime pas l'automne, je n'aime pas l'hiver sur le fait que les journées soient trop courtes. Alors j'aime bien la neige, j'aime bien le soleil, j'aime bien le froid, je crains pas ça, enfin... Je crains pas ça, c'est pas ce que je préfère en fait, mais le froid quand on est bien couvert, ça passe. La neige, c'est agréable de courir dedans, j'adore courir dans la neige, j'adore faire des bonhommes de neige, je me roulerai dans la neige, etc. Mais, quelque chose est irremplaçable pour moi, ce sont mes levées de soleil, et à partir du printemps en plus, je peux courir de plus en plus tôt, jusqu'au point de pouvoir partir à 5h du matin, et puis je prenais mes petites affaires pour faire un café au sommet de la petite montagne, c'est-à-dire que je prenais une bouteille d'eau chaude, je prends ma cafetière portative, je prends un peu de café qui me fait plaisir, et puis je fais ma petite séance, et puis quand j'arrive au sommet de ma petite montagne, je m'installe, je me fais mon café face au lever du soleil. Ça, c'était ma découverte de l'année, mon grand plaisir de l'année, ça a quand même été ça. Et ça, je sais à quel point ça me faisait du bien, et à quel point je peux et je vais le recommencer cette année, quand ce sera possible. Alors, bien sûr, c'est possible toute l'année, cette histoire-là. C'est juste qu'en fait, sur des créneaux de temps, sur les heures, quand le soleil se lève à 8h30, en général, j'amène ma fille à l'école. Voilà. Et donc, c'est pas possible, en période hivernale, de faire cette opération levée de soleil. Je sais pas comment on peut l'appeler, hein, c'est levée de soleil comme ça. Je peux pas les faire toute l'année, c'est pas possible. Il y a un moment de l'année où dans les créneaux, par rapport aux heures à laquelle je m'occupe de ma fille, etc. Et puis après, il peut y avoir des rendez-vous, il peut y avoir plein de choses. Font que c'est beaucoup plus pratique et on a des belles journées au printemps et tout qui commencent à permettre de le faire dès que le soleil se lève plus tôt. Ça, c'est quelque chose que je pourrais recommencer. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est avoir partagé autant de choses avec vous. Déjà, il y a une forte augmentation du podcast. Soit, je dois vous dire, quand je regarde la courbe, il y a une, alors il y a un petit passage, un point de passage en nombre de téléchargements par mois, qui pour moi n'est pas, alors il n'est pas encore atteint l'objectif tel que j'avais fixé, n'est pas encore atteint. C'est une barrière qui est symbolique dans le monde du podcast, qui est sur la monétisation. Mais on s'en est vraiment beaucoup rapproché. Je dis vraiment, on s'en est beaucoup rapproché parce que sur les pourcentages d'écoute, c'est plus 40% en fait, grosso modo. Et c'était le cas sur Kilomètre 42, mais c'était le cas sur Sport et Nutrition. Et là, je suis vraiment content. Et il y a un truc, c'est que je considère que les deux podcasts sont un petit peu des sous-catégories en fait du monde sportif, du monde autour de ce que je veux faire, du mouvement, de bouger, manger mieux, bouger plus, etc. Et bouger mieux, en fait, j'ai envie de dire. Et Kilomètre 42 et Sport Nutrition, les deux podcasts ont beaucoup, beaucoup augmenté en audience. Et ça, c'est vraiment, vraiment une grande satisfaction. Je voudrais vous remercier d'être beaucoup plus présent, d'écouter les épisodes, de les partager aussi souvent. Merci beaucoup. Et puis, il y a un truc que j'adorais aussi, ce sont les vidéos du Hamster Running Club. Et alors, je parle des vidéos, mais le Hamster Running Club, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie dedans cette année pour le développer. Donc, si vous le connaissez pas, c'est la communauté qui est dans laquelle on discute, on s'échange des conseils, des astuces, des encouragements. Et puis, il y a aussi une partie FAQ toutes les semaines avec des questions. Et donc là, j'ai fait de nombreuses vidéos dans lesquelles je réponds à toutes vos questions. Et j'ai pris énormément de plaisir. C'est un format que j'ai lancé cette année. J'ai pris énormément de plaisir. Tous les vendredis matin, j'allume la caméra, je réponds aux questions. Et c'est notamment l'épisode du conseil. Vous en avez un extrait dans le conseil le samedi. Mais la vidéo est souvent, et pas souvent, est toujours beaucoup plus longue. Et des fois, j'ai répondu à 7, 8, 10 questions. Et puis, on aborde des thématiques qui ne sont pas abordées dans le podcast et qui sont souvent, d'ailleurs, il y a des questions plus personnelles sur ce que je fais, comment je fais les choses, mais j'ai livré aussi certains de mes sentiments, etc. Donc là, c'est vraiment ce partage-là, ces notions de partage, c'est vraiment extrêmement important. Et ce partage vient aussi sur les rencontres que j'ai pu faire. J'ai passé quand même pendant 2 ans, j'avais pas eu de dossard. J'avais fait depuis 2020, depuis mon trail anniversaire 2020, j'avais pas mis de dossard du tout. Cette année, en fait, j'ai retrouvé les dossards avec le 24 heures. Et puis ensuite, j'ai fait 2 courses, un trail urbain plus la course tâche, qui est la course contre le Movember, et qui m'a permis de croiser du monde. Et ça m'a fait vraiment, 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 vraiment du bien. Vraiment, je le dis. J'étais le 24 heures, j'ai pu croiser beaucoup de monde, des gens avec qui je parle tellement souvent. Hein, vous reconnaissez tous les uns les autres. Bien sûr, une pensée particulière pour Leïla et Pascal d'Apiron, avec qui on a monté Sport Nutrition, avec qui je suis partenaire, ambassadeur. Mais aussi, comment ne pas penser à Mathieu, papa Roadrunner, à Mehdi, à les personnes que j'ai croisées, avec lesquelles on a couru sur ce 24 heures. Et puis, certains d'entre vous aussi ont découvert le podcast par bien du 24 heures, parce que j'ai reçu encore hier un message par quelqu'un qui m'a découvert pendant 24 heures. J'ai une question qui a été posée par quelqu'un du 24 heures. Donc vraiment, vraiment, ce 24 heures, il y a le côté sportif, il y a le côté ambiance, il y a le côté des rencontres, il y a le côté cette petite communauté qui prend forme aussi, hein, avec des personnes que avec lesquelles je discutais à distance ou par le biais du Hamster Running Club et que maintenant j'ai vraiment rencontré. Et vraiment, c'était super cool. Et puis, il y a les rencontres dans le Hamster Running Club. Il y a des personnes, par le biais des discussions dans le Hamster Running Club, par le biais des échanges, et on pourrait dire aussi par Instagram, hein, beaucoup, mais par le Hamster Running Club, on apprend à se découvrir, on apprend à en savoir plus sur eux, sur elles, sur ce qu'elles font, comment elles pensent, comment les aider, qu'est-ce que moi je peux faire et qu'est-ce que la communauté peut faire pour les aider et comment elles aident la communauté. Et ça a été des formidables rencontres. Vraiment, je dis, il y a des personnes qui sont vraiment formidables. Je le dis pas pour que vous veniez dans l'Hamster Running Club, je le dis parce qu'elles sont vraiment formidables. Et qui ont plein d'attention. Je vous en expliquerai une un peu plus tard. Mais vraiment qui font chaud au cœur et que je voudrais vraiment vous remercier. Il y a aussi les personnes que j'ai rencontrées dans le podcast, bien entendu. tous les invités. Hein, j'ai pas compté le nombre d'invités. J'ai pas fait les stats. Hein, le nombre d'invités, on pourrait dire sur l'année, il y a peut-être eu 10 épisodes solo et encore grand maximum. Et puis donc ça veut dire qu'il y a au moins 40 invités plus une vingtaine d'invités sur Sport et Nutrition. Donc on va dire environ 60, peut-être 60-65 invités. Vraiment des chouettes discussions, beaucoup de moments, des moments émouvants, des moments de découverte, des aventures auxquelles moi j'aurais pas pensé, des pratiques qui sont totalement différentes des miennes, mais qui permettent en fait de réfléchir, de penser, de voir aussi ce qu'on peut faire, qui donnent des idées. Des invités des années précédentes ont donné des idées, ont fait naître des projets, des pratiques, des choses comme ça. Même le 24 heures par exemple, hein, finalement c'est la somme de différentes rencontres. La rencontre déjà avec Bruno Hobby, la rencontre aussi avec Pascal Lapironne, qui tous les deux m'avaient expliqué en fait que à quel était l'intérêt de faire un 24 heures et pourquoi c'était intéressant, pourquoi c'était aussi pertinent de le faire. Et puis la rencontre de Mehdi, que j'ai d'abord invité pour parler de son 24 heures, et puis ensuite on a parlé de comment il organisait une course. Et finalement, ce jour-là, je lui dis, écoute, moi, je viens. Voilà, je viens, je fêterai mon anniversaire le jour du 24 heures. Ça sera ma manière à moi de fêter mon anniversaire. En fait, ces rencontres dans le podcast, ces invités, participent vraiment à la manière, en fait, dont j'évolue et dont j'espère qu'en fait, vous évoluez vous aussi. Comment ça peut vous aider vous aussi à progresser, à avoir des idées, à voir les choses un petit peu différemment. Et puis, bien sûr, je voudrais aussi parler des rencontres que j'ai dans les clients que j'ai pu avoir en coaching. Alors, il y a les coachings préparation mentale, il y a des coachings sport qui vont arriver aussi, une nouvelle phase. Je suis aussi en train de me certifier en nutrition, on peut devenir coach nutrition. Donc, il y a cette partie-là, mais il y a aussi la partie que vous voyez pas, moins probablement par rapport à ce podcast. C'est en fait les personnes que j'accompagne en podcasting et en entrepreneuriat. Et il y a un podcast dont, sauf si vous parlez espagnol, vous pouvez pas écouter, mais que je dois dire, je pense à Alix, que j'ai eu en accompagnement et que j'ai encore, l'accompagnement est pas terminé, mais qui a lancé un podcast, qui fait aussi du trail, et qui a eu notamment, alors je dois le dire parce que c'est, je suis fier pour elle et j'en suis fier aussi de l'avoir aidée à lancer son podcast. Elle a eu Pocapel comme invitée sur un podcast naissant, ça va être son épisode 10. Elle a eu Pocapel, la star espagnole du trail, et j'étais un peu jaloux en fait là-dessus. Mais je lui ai dit de façon le podcast, et je dis souvent le podcast permet de rencontrer à peu près n'importe quelle personne que l'on veut dans son domaine en ayant une très bonne excuse pour lui parler. Et en fait, elle le valide. Elle le prouve que c'est vrai. Et moi, en fait, cet adage n'est pas vrai. Et j'en parlerai en fait dans ce que j'ai pas aimé, parce qu'il y a quelques personnes, des invités potentiels, dont j'ai pas aimé en fait comment ils ont traité le podcast en fait, et comment certains ont même, il y a eu des non-réponses sur certains invités, et puis des fois des réponses qui m'ont pas plu. Et je me dis en fait, est-ce que c'est un truc qui vient du podcast, ou que c'est franco-français, j'en parlerai après là-dessus. Mais en tout cas, j'étais très content, j'ai fait des belles rencontres aussi, des personnes que j'ai accompagnées, et on fait une équipe, hein, main dans la main, pour avancer vers les projets, et que devenir tous champions du monde de notre monde, c'est l'adage du podcast, c'est l'adage du Hamster Zoning Club, c'est l'adage aussi du coaching, c'est qu'on devienne champion du monde de notre monde, et je suis là pour vous aider, et en fait, le coaching est une autre forme. Il y a le podcast, il y a l'Hamster Zoning Club, il y a des formations, des programmes et il y a le coaching. Les rencontres aussi, c'est après les courses, hein, j'en ai parlé, après l'Urban Trail, après la course Tâche, il y a des gens que je n'avais jamais vus et mais que j'avais croisés sur Instagram notamment ou dans le podcast ou que j'ai eu en invité, hein, je pense à Thomas, TomRunner63, que j'ai eu deux fois en invité, de le croiser en vrai après une course, ça fait vraiment plaisir. Et puis, j'ai aussi des personnes que je revoyais sur d'autres courses avant, que je faisais régulièrement et que j'ai eu le plaisir de reconnaître, de revoir aussi, ou aussi des personnes, par exemple, du club, auxquelles je ne vais plus, mais que je croise régulièrement, puis d'autres que je croisais moins et avec lesquelles j'étais content de les retrouver. Et ce qui montre en fait que la course, c'est un sport qui est très solitaire, surtout moi, je m'entraîne toujours tout seul, mais qui permet de rencontrer beaucoup de gens. Et puis, dernier point quand même, dans les rencontres, il y a aussi l'or avec lequel maintenant on fait la Minute Perf. Hein, il y a eu, sur la fin de l'année, il y a eu 9 épisodes de la Minute Perf qui ont été diffusés. Et bon, c'est une sacrée rencontre. Hein. On ne se connaissait pas il y a 3 mois. Quand est-ce qu'on a commencé la Minute Perf? On a commencé un peu en octobre. L'histoire, en fait, c'est qu'un jour, elle m'envoie un message et elle me dit « J'adore le podcast, j'adore ce que tu fais et je pense qu'on pourrait... je pourrais t'aider, on pourrait développer des nouvelles choses et tout avec ma casquette à moi donc c'est casquette à elle. Elle dit je pourrais t'aider. On a fait une petite premier échange, enfin un seul échange d'ailleurs sur le un jour en physio et à la fin de la visio je lui ai dit écoute Laure banco, on va faire un essai sur jusqu'à la fin de l'année, on va voir comment ça se passe et on va d'abord faire un épisode de présentation sur la performance et puis ensuite on fera des épisodes sur les différents facteurs de performance. Alors, ce qui est drôle, c'est d'appeler ça la Minute Perf alors que ça dure une heure. On pourrait faire des épisodes qui soient des fois plus longs, hein, je peux le dire, parce qu'il y a des trucs, des fois, des sujets qui seraient... On essaie de les découper. Je peux vous garantir que les premiers épisodes qui vont arriver là en début 2023 vont être vraiment vous aider à progresser, puis à apprendre de nouvelles choses. Mais pas seulement sur se dire... je trouve un plan d'entraînement ou est-ce que je dois prendre telle boisson de récup ou quoi que ce soit. Parce que ça, en fait, c'est des conseils qu'on trouve relativement facilement un peu partout. Puis chacun, puis vous avez vu avec les invités, ils ont tous leur méthodologie, les petits trucs et tout. Mais en fait, là où on veut aller plus loin avec l'or, c'est en fait de vous aider à comprendre comment vous fonctionnez, comment vous apprenez les choses, comment vous pouvez vous entraîner. Comment vous pouvez intégrer les différents sports, quelle importance. Et on le voit, parce que moi, quand je regarde les stats, je vois qu'il y a des épisodes, par exemple, sur le fonctionnement des filières énergétiques qui ont eu beaucoup de succès et qui montrent que vous aimez ça, en fait, apprendre des choses, apprendre comment on fonctionne. C'est-à-dire que aller plus loin que de prendre la recette et comprendre pourquoi la recette, elle fonctionne. Et ça, c'est vraiment un point qui s'ajoutait avec la Minute Perf. Un domaine qui n'était pas du tout abordé dans le podcast, ou très peu, qui était abordé par le biais de certains invités, qui expliquaient certains éléments avec lesquels on pouvait creuser le sujet. Et là, en fait, on le fait beaucoup plus systématiquement. Passons maintenant à ce que j'ai moins aimé, et je vous l'ai dit, hein, il y a des choses que j'ai moins aimées, notamment c'était certaines réponses d'invités potentiels. C'est comme ça, en fait, il y a des trucs, dans les coulisses, il y a un truc que vous voyez pas, c'est que pour avoir des invités pratiquement toutes les semaines, ben il y a du travail, de recherche, de dire, ben tiens... quelle personne je pourrais avoir, quel invité, de quel sujet et tout. Et la plupart des gens qui j'ai envoyé des invitations disent oui. Et souvent, ce qui est un peu compliqué à caler, ça peut être un emploi du temps, c'est d'arriver à caler les bons emplois du temps, le bon moment, les bonnes périodes, etc. Par exemple, il y a un invité qui est... à chaque fois que j'ai contacté cette année, il me disait c'est pas trop la bonne période. Mais on a conclu que la bonne période serait plutôt sur le printemps ou le début de l'été. Voilà, on a pris date. Voilà, c'est comme ça. Et cet invité, je peux vous le dire d'ailleurs, il court avec une casquette, il est assez connu pour ça. Et ça, c'est comme ça. Mais parce que il y a des créneaux, il y a des choses. Et puis il y a des gens, franchement, il y a des personnes qui sont même pas très connus, même pas extrêmement connus, ou quand même peu de visibilité sur les réseaux sociaux, pour certains, j'ai pas eu de réponse aux invitations, malgré avoir envoyé plusieurs messages, etc. Et puis pour d'autres, qui ont répondu en disant oui, et puis non, et puis oui, puis non, et puis qui ont fini par dire, écoute, finalement, ça m'intéresse pas. Et ça, je le comprends vraiment de cette manière-là, etc. Et puis, il y en a qui l'ont dit de manière qui n'était pas très sympathique. Je dis pas de nom, mais je trouvais que c'était pas très sympathique. Et ça, en fait, dans mon année, en fait, il y a des moments, ça m'a plombé le moral, en fait. C'est-à-dire qu'il y a même quelqu'un qui m'a dit, écoute, ne le prends pas mal, mais en fait, j'ai pas envie de venir. Enfin, je ne prends pas mal, mais j'ai trop de trucs à faire. Et puis, j'ai retrouvé dans plein d'endroits et tout, il y avait plein d'autres projets. Et c'est ainsi, comme ça, voilà. C'est juste que moi, en fait, ça me plombe mon énergie, en fait. C'est-à-dire que quand je prends ce genre de message et qu'on me dit ça, et qu'en même temps, je me dis, oui, bon, bah, c'est dommage, c'est partie des demandes que j'ai pu avoir, et puis j'ai eu peut-être des bouts de trucs, il y a une certaine incompréhension et à gérer au bout d'un moment, c'est un peu pénible. J'ai aussi des gens qui m'ont qui avaient avec lesquels on avait calé des choses et puis qui ne sont pas présentés au point de au rendez-vous sur la visio d'enregistrement par exemple. Donc il y a des épisodes qui n'ont pas pu être faits. Ce qui est dommage en plus parce que je pense notamment à une application qui était super intéressante pour vous aider notamment à progresser. Il y avait une belle histoire à raconter derrière et que je n'ai même pas eu le moindre mot de dire bah désolé, j'ai oublié ou je pouvais pas ou quoi que ce soit. Non, ça a d'abord été un report, un deuxième report et puis finalement le jour où c'est calé, moi j'envoie des alertes, j'envoie des messages la veille et tout, rien du tout. Et message sur Instagram, pas d'excuses, je dis on devait faire un truc quand même. Rien, pas de réponse, pas d'excuses, rien du tout. Et en fait, ça m'a plombé un petit peu. Et ça m'amène à me poser la question, d'ailleurs, de me dire, mais comment je peux gérer ça? Comment je vais gérer ça sur l'année qui vient? Pour que, en fait, ça se reproduise moins, hein, ou en tout cas, que je le prenne avec plus de détachement, avec plus de distance, cet aspect-là. Mais en tout cas, si je le dis, c'est que, il y a des trucs qui, ça plombe un peu, quoi. Et, ce qui a plombé aussi, c'est, des barrières. Des barrières qui ont été posées, notamment, je pense qu'il y avait un invité potentiel du podcast qui était, moi je pense qu'il était chaud, hein, on pourrait dire, il était d'accord et tout, mais c'était pas la période. Et puis quand la période est venue, est-ce qu'on peut le recontacter, etc. Et puis il y a même eu un moment donné où on s'est dit, parce que c'était Leïla Dapiron qui avait eu le contact et tout, et on s'est dit, là quand même, il a le temps de le faire, il aurait le temps et tout, maintenant, et en fait... Il faut passer par des intermédiaires et tout. Et quand l'intermédiaire dit non, non, c'est pas le moment non plus. Et là, on se dit, mais il y aura jamais le moment, quoi. Ce sera jamais ce moment-là. Donc, ça, c'est comment le gérer. Comment gérer ce truc-là. Je me suis même dit à un moment donné de me dire, il me faudrait quelqu'un d'intermédiaire, de l'aide et tout sur ce domaine-là. Et là où je l'aurais plus besoin d'aide, je pense que ce que je vais développer ou je vais peut-être essayer de m'accompagner, hein, dans l'année qui viendra. C'est sur la recherche des sponsors. Parce que là aussi, les sponsors, alors, faut pour donner les coulisses, je travaille avec une régie qui s'appelle Acast, et cette régie ramène des sponsors. Hein, c'est Dacia, cette année, il y a eu le Club Med, des annonceurs de ce type-là. Et à côté de ça, on essaye aussi, je le dis par exemple sur Sport Nutrition avec Leïla, on essaye d'aller chercher des nouveaux sponsors, des nouveaux partenaires. Donc il y en a un qui s'appelle Coro sur sport et nutrition et puis essayer de se dire on pourrait en avoir d'autres. Je pourrais essayer d'en avoir d'autres aussi sur le kilomètre 42, je pourrais essayer d'en avoir d'autres aussi sur mon compte Instagram et tout. Bon, bref. Et là en fait c'est vraiment il y a eu des beaucoup de réponses négatives, beaucoup de réponses négatives et là aussi c'est pareil en fait, c'est-à-dire que c'est toujours cette histoire de réservoir en fait. C'est-à-dire que ce réservoir-là, en fait, il plombe un peu le moral. C'est-à-dire de se dire, quand on envoie 10, 15, 20 messages et tout, et que c'est négatif, toujours comme ça, bon, au bout d'un moment, on se dit, ah mince, mais qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faudrait développer et tout. Et il y a un moment de l'année, ça m'a un petit peu tapé sur le système, je dois le dire. Quand on parle de réservoirs qui se vident et qui se remplissent, ça m'a un peu tapé sur le système. Et ça m'a tapé sur le système, d'autant qu'en fait, c'est aussi dans la période où ça m'a réveillé mes douleurs. Beaucoup parlé de douleurs cette année, donc on m'a diagnostiqué une hernie, et puis une hernie discale, et puis j'ai eu mes douleurs de sciatique. Et donc cette sciatique, elle est venue, elle est partie. Et là, je touche du bois, en ce moment, elle me lâche un petit peu la grappe, hein, soyons honnêtes. Mais il y a eu des moments où je ne pouvais où j'étais plié en deux, il y a des moments où je pouvais pas dormir, il y a eu un mois presque entier où la nuit ça me réveillait tellement ça me faisait mal, je pouvais pas trouver de position, on m'a testé plusieurs périodes d'anti-inflammatoires et puis des nouveaux kinés, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et l'ajout en fait de ces petits trucs au bout d'un moment, ça m'a vraiment tapé sur le système quoi. Vraiment, vous l'avez peut-être ressenti dans mon enthousiasme, dans mon humeur, même si j'essaie de masquer et tout, il y a un bout d'un moment, ça me tapait un peu sur le système, et au point de me demander en fait si l'avenir de Kilomètre 42 n'était pas compromis. Bah ouais, parce que quand on a mal au dos, quand on n'arrive pas à bouger, quand on n'arrive pas à courir vraiment comme il faut, c'est-à-dire qu'il y a, j'ai couru tous les jours, mais il y a des moments où il y avait vraiment des douleurs importantes, etc. Et je me suis rendu compte, donc dans mes recherches, en fait, de dire mais comment je vais faire pour passer ça, et que en fait il manquait un peu de mouvement et que plus je bougeais, moins j'avais mal. Donc il fallait une certaine dose de mouvement. Mais que je rajoute aussi ces difficultés à avoir des fois certains invités, ces difficultés par rapport au sponsoring, pour gagner de l'argent avec le podcast, pour en vivre et tout. Il y a un moment, je me suis dit, mais à quoi bon? Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je le fais différemment? Est-ce que je change les choses, etc. Bien entendu, si je fais cet épisode-là aujourd'hui, c'est pas pour dire que c'est la fin, c'est plutôt pour dire que sur 2023, on continue. Et on continue sur le même rythme actuel, c'est-à-dire l'épisode du mercredi, où je suis rarement solo maintenant, mais sur des sujets complets, et puis avec des invités. L'épisode du samedi qui est une réponse, hein, le conseil qui est vraiment une réponse à une de vos questions. Et puis la minute perdue du lundi. Ouais, moi je travaille comme ça en fait. C'est-à-dire que pour moi c'est pas le lundi le premier épisode de la semaine. C'est-à-dire que ma semaine pour moi l'épisode c'est du mercredi au lundi suivant en fait. C'est comme ça que je le prends dans l'ordre en fait, et notamment parce que la minute perdue peut être un rebond de l'épisode du mercredi. Donc il y a cette notion là pour moi en fait, hein, la semaine du podcast elle commence vraiment le mercredi. Les premiers épisodes de la semaine n'est pas celui du lundi, mais celui du mercredi. Pour moi, la semaine commence vraiment dans la préparation de l'épisode pour qu'il soit diffusé, notamment à ceux qui sont dans la partie dans Patreon, qui sont sur le Hamster Running Club, dans la partie payante du Hamster Running Club. Je le diffuse avant l'épisode, généralement la veille. Donc c'est pour ça que je dis que souvent, moi, ma semaine, elle commence le mardi, vraiment, sûrement, je diffuse l'épisode. Et donc ça va jusqu'au lundi suivant. Voilà, c'est pour ça que je les pose toujours dans cet ordre-là. Pour finir sur ce bilan, dans mes réservoirs, j'aborde maintenant mes réservoirs. Et ben, il y a eu ce qui a rempli en confiance, courir tous les jours, bouger plus, être moins sédentaire, mes défis, discuter, podcast, Hamster Running Club, les coachings et tout. J'ai rempli un livre cette année sur ma raison d'être et le mot discussion était vraiment au cœur, hein, de ce que je fais. Et vraiment l'importance de ce que je fais, les vidéos du Hamster Running Club, les programmes, tout ça dans le Hamster Running Club, et la croissance du podcast, la croissance de ma capacité à courir, mes nouvelles compétences de course à pied, on en reviendra un petit peu. Ça a vraiment rempli mon réservoir de confiance. Et puis ce qui remplissait un peu mon réservoir de à merde, hein, j'ai envie de dire, c'était sponsor, gestion des invités, la fluctuation des revenus que ça pouvait aussi avoir, la fluctuation aussi des fois de tout simplement aussi de se dire mais quel épisode je peux diffuser, à quel moment je peux diffuser certains épisodes, est-ce que je peux avoir les épisodes et tout, parce que quand j'ai une semaine j'ai eu une semaine par exemple, j'ai eu un qui est pas venu au rendez-vous et l'autre qui a décommandé, et je me suis retrouvé donc sur des semaines où j'avais 2-3 semaines d'avance, des fois j'ai eu plus d'avance, et puis des fois je me suis retrouvé avec aucun épisode en stock et le temps qui passait, et avec des gens qui décommandaient, et ça c'était des trucs qui au bout d'un moment ça tape un peu sur le système. Donc qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire, hein, pour gérer tout ça? Ben déjà en fait c'est d'avoir des offres qui vont me rendre moins dépendant de la publicité. C'est pour ça que je propose déjà des programmes d'entraînement, ce que j'appelle les pépites aussi sur Hamster Running Club, c'est-à-dire il y a eu le programme sur comment préparer 2023 par exemple, comment définir des objectifs, comment courir tous les jours. Ça, ce sont des programmes que vous pouvez acheter à l'unité, qui sont pas très chers, hein, que vous pouvez acheter et qui vous permettent, hein, de progresser sur des domaines particuliers. Et ça, je vais développer ça plus dans l'année. Je vais aussi développer la partie coaching, vraiment, qui est un élément qui est vraiment important, avec des programmes centré sur un seul sujet, genre la préparation mentale ou des choses comme ça, soit vraiment vous accompagner pendant 3 mois sur une approche globale avec un niveau, avec différents niveaux d'accompagnement pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde. Et par exemple, ça peut être soit vous avez besoin d'un petit peu d'aide, soit vous voulez un vrai soutien, et ça va être de la visio, des appels toutes les semaines, des soutiens par messagerie et tout, enfin vraiment un coach vraiment personnel, j'ai envie de dire, vraiment dans votre poche et toujours au téléphone pour répondre à vos questions et tout. Donc il y aura différentes choses qui vont venir là-dedans pour développer ça et me rendre moins dépendant en fait de la publicité, des variations de la publicité, Par exemple, là, dans cet épisode, pendant que j'enregistre, je sais qu'il y a la publicité qui sera diffusée pendant cet épisode-là. Mais dans un mois, en fait, à peu près, un peu plus d'un mois, je ne sais pas s'il y aura des nouveaux annonceurs sur le podcast, s'il y aura des nouvelles PH publicitaires, quels seront les annonceurs potentiels, et si ils rapporteront autant d'argent que ce qu'a été les annonceurs actuels. Ça, c'est un côté qui est vraiment une instabilité que je veux contrer. Et je vais la contrer, en fait, en prenant les choses en main de mon côté. C'est pas en allant chercher forcément plus de pubs, parce que gérer plus de pubs, c'est aller chercher des sponsors, des nouveaux sponsors. Et donc, c'est aller justement me coltiner certaines relations qui m'ont pas plu. Donc, je vais éviter d'augmenter trop ça, mais c'est plutôt d'aller faire ce qui m'a plus cette année, c'est-à-dire faire des nouvelles vidéos, faire des nouveaux podcasts privés, notamment pour vous aider sur des sujets, pour vous aider avec des programmes d'entraînement, et puis aller vers la discussion et vers les coachings. Donc, c'est comme ça que je vais le gérer, en fait, c'est développer des offres moins dépendantes de la pub, ne pas remplacer une source publicitaire par une autre source publicitaire, mais remplacer la source publicitaire par des programmes et puis par des choses qui me nourrissent beaucoup plus, en tout cas sur le plan de la confiance et sur le plan de le mental. Cette année sera aussi pour moi très importante sur le plan des émotions. Vous savez qu'une partie de ma philosophie, la grande partie de ma philosophie, c'est SAM, sommeil, alimentation, mouvement. Je vais terminer ma certification de coach nutrition dans un mois ou deux. Donc ça sera pour la partie alimentation, la partie mouvement, bah, vous l'écoutez tout le temps et tout, et comment je bouge. Mais il y a un truc que je suis en train de rajouter dans SAM, c'est la partie émotion. Toute la partie mentale, alors bien sûr que j'ai été certifié en préparation mentale, hein, ça aussi c'est fait partie de mes réussites de l'année, d'être certifié préparation mentale. Mais je voudrais développer aussi des aspects sur déjà en tant que moi, en tant que qu'individu, vous savez, on a ces périodes de up and down, et comment, alors c'est inévitable d'avoir des moments faibles et tout, mais c'est comment les gérer. Et en fait, c'est un aspect que je veux mieux apprendre à gérer pour moi, et puis mieux vous aider à apprendre à gérer aussi pour vous, notamment sur la confiance, sur les émotions négatives, sur les pensées négatives, les pensées limitantes, tous ces éléments-là là, qu'on a là-dedans. Et donc c'est la poursuite de mes recherches sur la préparation mentale, elle est plus loin que la certification. J'ai pas compté le nombre de bouquins que j'ai sur le sujet, le nombre de documents, d'écrits que je peux faire sur le truc pour vraiment que c'est important. C'est aussi développer ma confiance et voir sur quoi la confiance en soi se base et comment par certains invités, par certaines lectures, par certaines recherches, par certaines actions que je peux faire, par certaines mises en des pratiques, par des choses que j'ajoute dans mon quotidien, comment je peux développer ma confiance, et puis aussi comment je peux apprendre à mieux gérer certaines émotions. Et notamment, par exemple, j'ai introduit cette année, j'avais déjà introduit par le passé, mais essayer de plus systématiser tout ce qui est la cohérence cardiaque. Je vais me remettre à la méditation. Il y a des aspects comme ça que je vais réintroduire, et en fait, qui vont venir aussi teinter un peu le podcast dans les mois qui viennent, parce que par exemple pour parler de méditation, j'aimerais bien avoir parler de ce sujet-là, méditation et course à pied, méditation et sport, méditation et émotion, apprentissage, enfin il y a plein de sujets qu'on peut aborder, et j'ai quelques idées d'invités. Cette année on a parlé d'hypnose par exemple dans le podcast, je voudrais aussi reparler d'hypnose avec d'autres invités, je voudrais aussi reparler de plein de thématiques qui sont pas seulement sur comment finalement on fait bouger notre corps, comment on le nourrit, comment on se repose, mais aussi finalement qu'est-ce qui se passe dans notre tête, comment on peut gérer cet aspect mental, cet aspect préparation mentale, cet aspect prise en compte de nos émotions négatives, nos émotions positives, comment on gère notre confiance, tout ça, comment on peut le gérer. Et ça va aussi être un gros travail pour moi, déjà, hein, de le faire, et puis de vous aider vous aussi à le faire. Voilà, bah écoutez, mon bilan est fait. Maintenant, on va passer aux questions. Mais avant les questions, je vous ai parlé, on va faire une autre pause publicitaire. Parce que vous savez, je le répète, hein, c'est ma manière à moi de devenir champion du monde de mon monde. C'est pour l'instant la pub. J'espère petit à petit baisser l'importance de la publicité. Mais pour l'instant, j'en ai besoin. Allez, on se retrouve juste après pour une réponse à vos questions. Bon, réponse à vos questions. Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions. Franchement, j'ai eu des questions dans M.S. Zoning Club, j'ai eu des questions sur Instagram, j'ai eu des questions en message privé et tout. Je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions en détail, mais je vais essayer de vous donner le plus de les réponses, les balayer en fait les réponses pour vous donner les réponses les plus sincères, d'une manière la plus rapide aussi. Comme ça, vous aurez un peu la logique. Je vais commencer par des questions diverses. J'ai eu des questions, par exemple, les questions humoristiques. Hein, je réponds, est-ce que tu cours plus vite avec ou sans barbe ? Non, c'était un petit clin d'œil. C'est vrai que si vous regardez sur Instagram, il y a des, je change de tête. Il y a des moments, en fait, j'ai pas du tout envie de me raser, donc je me rase pas. Puis, comme ça blanchit, en fait, ma fille se moque un peu de moi avec mon poids. Elle me dit que j'ai la barbe blanche, mais ça fait partie des petites blagues, etc. Mais en fait, non, il y a aucune recherche aérodynamique là-dessus pour moi. Donc, je termine avec la réponse là-dessus. Il n'y a pas de recherche aérodynamique. Lily Run for Fun m'a dit, qu'est-ce que j'ai reçu à Noël? Par curiosité. Et il y a une réponse plus loin, je vous en parlerai. Parce que Laurie m'a demandé, parce que elle était dans la confidence, Laurie. Enfin, elle avait écouté l'un des épisodes et tout. Puis j'en ai parlé aussi dans la partie privée, parce que Laurie fait partie de ceux qui soutiennent le podcast. Et je te remercie, Laurie. Est-ce que le bureau debout est installé et testé? On avait parlé du bureau debout avec Laure dans un épisode de la Minute Perf. Et oui, j'ai bien eu mon bureau debout. Mais non, il n'est pas testé, il n'est pas installé. Il est encore dans son carton. Pourquoi? Bah parce que d'abord, il faut que je range mon bureau, faut que je plie mon bureau actuel, que je sorte tout. Et je me suis lancé aussi dans un rangement de certains livres. En fait, j'avais beaucoup de livres sur des sujets comme comment créer des sites internet, tout ça, et dont je me servais plus beaucoup. Et pour faire de la place pour les livres sur la course à pied, sur le mental, sur la nutrition, il fallait que je fasse de la place. Donc, j'ai un grand rangement de mon bureau en ce moment, et puis qui va venir aussi sur le bureau. Donc la pièce, mais aussi sur le bureau en lui-même, là où est posé l'ordinateur. Et donc là, c'est un peu, c'est, il y a, je voulais pas le faire tant que j'ai pas enregistré cet épisode, tout simplement parce que la priorité de ma semaine, c'est vraiment d'enregistrer cet épisode de podcast pour boucler cette année 2022. C'est important. Et ensuite, je pourrais installer et pour démarrer début 2023 avec un bureau debout pour pouvoir travailler parfois debout et puis parfois assis, puisque le bureau est motorisé, donc il peut descendre, il peut monter à certains niveaux. Et les futurs épisodes de podcast, je pense qu'ils seront enregistrés debout. Voilà, probablement debout. Mais c'est juste que là, il y a une question d'installation. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre à Noël? J'ai eu un beau cadeau, mais je vous le dirai un peu plus tard, un peu plus loin. Voilà, je garde ça un peu plus loin. Et puis hier, je me suis acheté un beau. J'ai regardé un peu les livres sur la préparation mentale, sur des choses comme ça. J'ai eu quelques petits billets et tout. Pour regarder un petit peu ça. Et puis sur le développement de ma marque personnelle, hein, c'est-à-dire la partie marketing autour du podcast, autour de qu'est-ce que je raconte aussi sur Instagram et tout, voilà, tout ça, un petit peu. J'ai eu un beau stylo, j'ai eu un beau carnet, j'ai eu un livre. Alors, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais adoré Le Guerrier Pacifique et Dan Millman. Et en fait, j'ai eu la suite du Guerrier Pacifique. Donc je sais plus exactement le nom du livre, mais j'ai eu la suite du Guerrier Pacifique. Donc ça fera partie de mes lectures du début d'année, puisque tous les soirs j'aime bien lire un bout de roman, un truc comme ça. Et ben donc j'ai relu la suite du Guerrier Pacifique et le Guerrier Pacifique fait partie des livres que je recommande. Coureur Bouger m'a demandé quels sont mes podcasts préférés et je dois dire en fait que je n'ai pas de podcast préféré. Je n'écoute pas beaucoup de podcasts en courant. Alors pourquoi? Parce que d'une part j'ai des activités de coach en podcast et que des fois j'écoute les podcasts des gens que je coach, que j'accompagne. Ça c'est un point. Et puis après je vais picorer un peu des podcasts à droite à gauche à côté. Et puis je vais éviter les podcasts qui parlent trop de sport, de course, parce que soit c'est des invités que j'ai déjà eu, donc je me dis je sais pas si, est-ce que je vais apprendre quelque chose de plus, oui ou non. Puis alors des fois je me dis cette question a été bien, je regrette, je te regrette qu'il m'ait pas raconté ça ou quoi que ce soit, ou alors je dis oui bon ça j'ai déjà entendu. Soit il y a des gens que je connais pas du tout et dans ce cas là si je les écoute trop après j'ai l'impression que j'ai plus rien à apprendre quand je les ai en invité. Donc des fois après il y a des personnes qui donnent des idées, on a envie et tout. Mais je vais aller picorer certains podcasts en fonction un petit peu des sujets, des personnes que ça peut être, des sujets qui sont abordés. Par exemple, à une époque, j'écoutais toujours Génération de Victor Self. Bon, je l'écoute un peu moins. Dans les invités du podcast que j'ai pu avoir, par exemple, j'ai eu, on a parlé de Let's Try Podcast, on a parlé Les Frappés. Donc, d'autres podcasts qui ont été invités, que je vais aller écouter, en fait, un petit peu comme ça, les épisodes et tout. Let's Try, par exemple, je disais souvent, je lui ai dit dans un épisode, je vais picorer, il y a certains épisodes qui m'intéressent plus que d'autres, voilà, sur certaines thématiques, etc. Mais grosso modo, en fait, j'ai pas de podcast préféré. Il y en a un que j'écoute plus, c'est Fitness Smith, que j'ai reçu dans Sport Nutrition il y a pas très longtemps, on a parlé de musculation. Et Fitness Smith, en fait, fait partie des gens dans le domaine musculation, fitness, dont j'aime beaucoup la philosophie. Qui est pas une philosophie qui est vraiment sur la philosophie de poids, à peu près garder son poids toute l'année, sa shape toute l'année et tout, et il a vraiment un mode hygiène de vie, et puis sur une hygiène de vie en fait il est vraiment dans le domaine du naturel et tout, enfin vraiment et en fait il me permet de faire ma veille, il me permet d'apprendre beaucoup de choses. Je suis abonné à sa zone payante sur la partie musculation, il y a des exercices, il y a beaucoup de choses. Et en fait, il me permet aussi d'avoir une veille, d'avoir une vision des choses, de réfléchir un peu différemment aux choses. Et c'est peut-être le podcast que j'écoute le plus dans l'année. Parce que celui-ci, en fait, quand je vois passer son podcast, quand je vois les épisodes qui remontent, j'ai une tendance à m'abonner, à télécharger, à écouter directement. Et puis, aussi, il y a un autre truc aussi, c'est que pourquoi je n'écoute pas beaucoup de podcasts? Il y a deux aspects. Un premier aspect, c'est parce que j'écoute aussi des livres audio. Par exemple, sur le 496 Challenge, j'ai dû écouter deux Laurent Gounelle. Je sais plus combien dans l'année, peut-être 4-5 romans comme ça à peu près, plus quelques livres techniques et tout. En plus, les nouveaux abonnements, les nouveaux formats d'abonnement de chez Audible en livre audio permettent en fait d'avoir accès aussi à un catalogue. Une fois qu'on est abonné, on a un catalogue gratuit en plus. Il y a le livre qu'on achète tous les mois, mais aussi plein de livres qu'on peut avoir gratuitement. Et donc, il y a des thématiques que j'écoute comme ça, des livres que j'écoute sur des sujets. Et donc ça, ça remplace les podcasts en fait. Hein. C'est un peu de la concurrence par rapport aux podcasts. Donc j'ai une variation entre ces fois où je vais écouter les podcasts et puis des fois où je vais écouter des livres audio. Il y a un podcast qui est pas sport, non, que je réécoute régulièrement, c'est le Super Daily quand même, qui est sur les réseaux sociaux, sur apprendre des réseaux sociaux et tout. Que j'aime beaucoup l'ambiance et puis les épisodes qui sont assez courts, sur les séances courtes je prends un peu ces genres d'épisodes un peu courts. Et puis le dernier point de pourquoi je n'écoute pas toujours des podcasts, c'est que il y a bien sûr j'écoute de la musique, mes playlists Spotify et tout, et j'ai certains titres cette année qui ont été un peu mes, notamment sur 496 Challenge, je termine toujours avec la même musique. Même sur le 24 heures, il y a un moment où je mets ma musique et tout, et dedans, vous serez pas surpris, il y avait un titre d'Orelsan, La Quête, que j'écoute régulièrement, mais il y a pas que celui-ci, il y en a plusieurs. Et il y a l'autre aspect, c'est que en fait, en courant, en fait, j'enregistre des fois des audios. J'ai fait des audios pour mon canal Telegram, j'ai fait des audios aussi, par exemple pour Laure, pour préparer les épisodes de la Minute Perf. Où en fait en courant l'un et l'autre on fait des audios, donc j'écoute ces audios, je réponds, elle fait pareil, et donc y a des séances en fait que je fais de cette manière là et puis je fais aussi ça avec les personnes que j'accompagne en coaching, quand elles ont des questions. Il y a des moments où en fait on fait de l'asynchrone, c'est à dire qu'elles m'envoient un message et puis je réponds un peu plus tard, et certaines des réponses que je fais je peux les faire en courant. Donc ou en marchant, ou en tout cas en mobilité. Donc ce qui fait que j'écoute pas tant de podcasts que ça au final. C'est un format que j'apprécie beaucoup, mais je peux pas dire que j'ai le podcast préféré, celui que je vais télécharger absolument. Je suis abonné environ à 250 podcasts. Et donc en fonction des podcasts, alors il y en a qui ne sont arrêtés, et en fonction des podcasts en fait, je vais aller piocher dedans ceux qui m'intéressent le plus, et en fonction des sujets, des invités, des thématiques, etc. Sidias m'a demandé, as-tu été malade depuis que tu cours tous les jours? Si oui, est-ce que ça a remis en cause ton défi? La réponse est non, en fait, j'ai pas été malade. Pas de Covid, pas de grippe pour l'instant, je touche tout le bois que j'ai autour de moi et comme ça. Je pense d'ailleurs que bouger tous les jours, courir tous les jours participe aussi à mon immunité globale. J'ai eu il y a pas longtemps un rendez-vous où on discutait un petit peu de fonctionnement de mon corps et tout, il y a un parti mental, il y a un parti un peu sur le vous savez, les micro-kinés, les trucs comme ça. Et le constat, en fait, c'était dire que finalement, j'ai une immunité qui est pas mauvaise. Alors, je la soigne, je fais attention, notamment, je prends de la vitamine D, je fais attention un petit peu à tout ça. Manger des fruits, des légumes, hein, fait partie de Sam, hein, grosso modo. J'ai bien sûr pas échappé à tout ce qui est les petits rhumes et tout. Là, vous entendez, j'ai la gorge qui gratte, j'ai le nez un peu pris. Mais franchement, quand je vois dans la famille qu'il y en a qui ont enchaîné Covid et grippe, et presque normalement, en fait, en disant « bah oui, mais c'est normal, après le Covid, on est fatigué, donc c'est normal, et la grippe qui passe, on la prend ». Ouais, bon, c'est pas ma vision des choses. Donc je touche du bois pour éviter ça. Franchement, si j'avais une grippe forte avec trop de fièvre, c'est sûr que le défi sera arrêté. Ça, c'est sûr. Mais j'ai couru, je pense, j'ai eu un ou deux jours où j'ai couru en étant un peu grippé, pas très bien et tout. Et dans ce cas-là, je m'écoute beaucoup. Par exemple, aussi, quand je dors pas assez, quand je me sens fatigué, je vais diminuer en fait mon volume d'entraînement, mon volume de course, ou je vais tout simplement marcher à la place de courir. Donc je vais courir un petit peu, puis je vais marcher, je vais allonger un peu la distance en marchant, parce que je vais éviter de puiser sur l'organisme trop. C'est ma manière de faire en fait. Voilà, c'est vraiment ma manière de faire, et pour l'instant ça marche très bien. Et puis une autre question diverse, c'est Laurie qui me demandait quel cadeau immatériel aimerais-tu pour 2023. Alors, quel cadeau immatériel? Il y a un cadeau que je vais essayer de m'offrir, c'est la sérénité. J'en ai parlé, en fait, hein, dans ces histoires de réservoirs de confiance, ces réservoirs de merde et tout, les trucs à faire, les trucs à éviter. Pour m'apporter la sérénité, en fait, il y a des trucs à faire, notamment sur des défis, sur courir régulièrement, courir tous les jours, progresser sur mon mental, progresser sur ma gestion des émotions, progresser aussi sur la gestion financière autour du podcast. Tous ces éléments là en fait, le but du jeu, c'est d'avoir de la sérénité. Voilà, c'est ça le truc. C'est un cadeau que je vais essayer de m'offrir cette année, c'est la sérénité. C'est vraiment le mot, je pense, important. Y a un autre mot aussi, c'est cultiver ma joie de vivre aussi. Mais je pense que si j'arrive à cultiver ma joie de vivre, le but de tout ça, c'est la sérénité. Donc c'est vraiment le mot qui est le plus important. Donc ça, c'était des questions diverses. Ensuite, j'ai des questions qui méritent plus de temps de réponse. Donc je le dis, il y a une question par exemple, Jean-Yves qui me demandait, on parle beaucoup de surentraînement, existe-t-il un sous-entraînement? Alors oui, ça existe, mais la bonne réponse que je vais te faire là-dessus, j'arrive, c'est que on va en parler dans la minute perf, dans une minute perf qui se rapproche probablement d'ailleurs la prochaine minute perf. Donc on en parle très bientôt et tu auras vraiment une vraie réponse sur le sujet. Fabrice m'a demandé combien de temps pour se remettre en route après une coupure de 3 semaines. Bon, ça, je vais en parler plus longuement dans le conseil de samedi. Mais c'est vrai qu'après une coupure de 3 semaines, on a toujours la question de savoir comment on reprend, est-ce qu'on a perdu nos compétences, etc. Et moi, j'ai un petit programme de reprise, vous savez, qui est basé sur de l'alternance course-marche. Voilà, tout simplement. Mais j'en parlerai plus en détail dans l'épisode de samedi. C'est une manière de faire du teasing. Et puis, Diane Pomme 63 me demande yoga et running avant ou après. Et ben, en fait, ça mérite plus de réponses et je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'il y a un enchaînement idéal, etc. Moi, en courant tous les jours et en courant souvent le matin, le yoga est souvent plutôt une activité qui serait dans ce cas-là plutôt un pré. Mais souvent, en fait, pendant très longtemps, j'ai démarré tous les matins avec des salutations au soleil, une séance de yoga du matin. Et c'est dans ma routine du matin, je l'ai repris parce que je me suis rendu compte que j'ai perdu en souplesse et tout. Donc j'ai repris un peu de yoga en routine du matin, quelques salutations au soleil. Et après, je pense que ça dépend du temps qu'on met. Par exemple, pour une personne qui court 3 ou 4 fois par semaine, peut se dire il y a 3 ou 4 fois par semaine on court et puis les autres jours on fait une séance de yoga. Et donc c'est pas du avant ou après, mais c'est en fait la complémentarité. Et cette complémentarité m'amène en fait à vous dire aussi que dans les prochains épisodes de la Minute Perf, on va parler de l'entraînement croisé, des complémentarités entre les activités, etc. Donc ce sont des questions, vous voyez, qui mérite plus de temps de réponse et c'est en train de maturer. Donc on les a notés, je les ai notés dans mon coin pour moi, on les note aussi avec Laure, j'ai transmis à Laure, j'ai dit écoute Laure, je pense qu'il y a un sujet qui est intéressant, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on peut en faire quelque chose. Et puis Laure des fois elle me dit waouh, ce truc-là, j'adore, on va pouvoir le mettre là, on va pouvoir faire ça. Et puis on discute et tout comme ça. Il y a beaucoup d'échanges en fait, parce que pour une heure de minute perf, je pense qu'il y a peut-être trois quatre heures de discussion, d'échange, de messages comme ça, de sur WhatsApp et tout. C'est assez rigolo. Ouais, c'est vraiment assez rigolo, je peux vous le dire. Parce que des fois, on se lance sur le sujet, on se dit ah, à la fin, si on avait enregistré ça, enfin on l'a enregistré mais sur la bonne qualité, ça fait presque un épisode de podcast en tant que tel. Voilà, donc ça va arriver, ces réponses-là vont arriver. Ensuite, j'ai eu des questions sur le podcast en lui-même. Alors, Sunshine Smell m'a demandé, as-tu fait des épisodes dont tu n'étais pas content et pas diffusé du coup ? Alors, cette année, non. Il se trouve qu'en fait, alors il y a un problème, c'est que j'ai perdu un disque dur à griller. J'ai deux épisodes que j'adorais, qui n'ont pas été diffusés, mais là il va falloir les enregistrer, les refaire, parce que voilà, c'est vraiment deux épisodes que j'avais adorés, qui étaient vraiment avec des personnes dont j'aime beaucoup le travail et tout, qui m'ont un sur le minimalisme, un sur l'entraînement et tout, donc vraiment là c'est à refaire. Sur sport et nutrition, il y a eu deux épisodes. Alors il y en a un plus par la force des choses où on a un peu fini par le zapper un peu sur les thématiques et puis il venait un peu périmé. Puis il y en a un autre dont la qualité était vraiment pas bonne, dont le sujet était super intéressant. Franchement, le sujet est super intéressant, mais la qualité audio était vraiment pas bonne. Et donc puis en plus j'avais loupé une partie des questions, je pense, intéressantes. En discutant à la fin, j'ai découvert un autre truc et tout sur le parcours de la personne en question. Enfin voilà, bon. Là, c'est le seul cas, mais cette année, en fait, sur Kimote 42, il n'y a eu aucun épisode que j'ai fait qui n'a pas été diffusé. Et en fait, je crois, pour tout dire, que il n'y a pas un seul épisode que je n'ai pas aimé. Il y a des épisodes où je me dis, waouh, là, il y a putain, ce truc-là. Puis des épisodes où je dis, j'ai moins ce waouh, en fait. Mais des épisodes où j'ai vraiment le waouh. Par exemple, un épisode récent, Claude Cazès, Forrest Gump français. L'épisode aussi, vous vous rappelez, avec Thierry, qui atteint du cancer, qui m'annonce qu'il sentait mourir et tout, et qu'ensuite il a recouru le TMB. Des épisodes avec Jean-Yves, on avait parlé, sur ces thématiques-là, autour des changements de vie, des parcours et tout. Moi, ça me fout les poils, des fois. Et puis, il y a eu tous les épisodes aussi sur, autour du RDS, de l'épuisement et tout, une thématique que je découvre totalement, qui sont vraiment pour moi vraiment des trucs, enfin une découverte, et puis un sujet qui me tient à cœur en fait, parce que j'ai le sentiment que ça va totalement à l'inverse de notre notion de vieillir galopant en fait, c'est-à-dire cet épuisement du corps qui vient des fois de bons sentiments, c'est-à-dire que on a envie hein, de mieux courir, de mieux manger, de mieux. Mais la frontière est des fois tellement fine que l'on tombe dans le trop, dans l'excès. D'ailleurs, le prochain épisode de Sport et Nutrition, on parlera des TCA. Mais on en parlera d'une manière plus large que juste TCA en pur, mais vraiment sur globalement sur les troubles, sur les différentes formes de troubles et quelles sont les variations autour de ces troubles, etc. C'est un sujet qui est vraiment super intéressant. Et une autre question qui m'a été posée aussi, c'est comment prépares-tu tes interviews ? Tu fais une pré-interview avant ? Ben non, pas de pré-interview avant. Et d'ailleurs, j'ai plein de gens qui me disent « Ah ben tiens, est-ce que tu veux qu'on s'appelle avant ? Est-ce que tu en discutes avant ? » Et je leur dis non. Je leur dis non, moi j'ai pas besoin. Si t'as des questions, bien sûr, je peux répondre et tout, mais je veux pas défricher en fait. Moi, ce que j'aime, c'est le côté découverte. Et je veux pas défricher avant, je veux pas que la personne déjà me raconte les choses. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ça m'enlève mon côté surprise, en fait. Ça m'enlève mon côté découverte vraiment des choses. Des personnes, de ce qu'elles ont fait, de comment elles l'ont fait, pourquoi elles l'ont fait. Et j'aime bien, vous savez, les épisodes, souvent, les intitule « Dernier ravito », au sens où on croise quelqu'un à la fin de la course, et puis on discute, on refait le monde, on refait la course, on dit « Ah, et puis... » En parlant de la course, et puis on dit, ah ben, ça me fait penser quand j'ai fait tel truc, ça me fait penser quand j'ai fait tel truc, etc. Et on en vient à découvrir un peu le parcours des autres personnes, les conseils, les marques qu'ils utilisent, etc. Et j'aime bien ce côté-là, en fait. Donc, mes préparations des interviews, en fait, c'est que déjà, j'invite des personnes dont l'histoire, le parcours, le projet, le défi me parlent. Voilà. des personnes qui me semblent d'abord plutôt sympathiques. Et ça, c'est un truc auquel je tiens parce que ça nourrit en fait. C'est-à-dire que c'est des personnes avec lesquelles j'ai envie de discuter, j'ai envie d'échanger. Moi, je suis un introverti, donc aller discuter avec des personnes, les inviter, c'est pas si naturel que ça pour moi au départ. Et donc il faut que, avec des personnes avec lesquelles j'ai vraiment envie d'échanger, hein, vraiment envie de discuter. Sinon, j'y vais pas. Donc, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a des personnes, des athlètes potentiels que je n'invite pas parce qu'en fait, je me demande si j'ai vraiment envie de discuter avec elles. Voilà. Donc, ça fait partie en fait de ma manière de voir les choses. C'est-à-dire que il y a des invités et j'ai vraiment envie de les avoir en me disant parce que vraiment j'ai envie d'échanger parce que elles ont l'air sympathiques, avec des trucs à apprendre, avec une philosophie sympa, avec des astuces, je pense, avec des anecdotes à raconter, avec des choses qui sont passées et tout. Enfin, vraiment, d'avoir des trucs géniaux à savoir, à découvrir et tout. Et il y a une espèce d'attirance, en fait, comme ça. Et c'est pas forcément... vous le savez, d'ailleurs, dans Kevin 42, c'est pas que il y a des invités qui sont plus connus que d'autres. Cette attirance en fait elle vient pour des personnes qui ont un projet qui est pas très connu mais qui en tant que tel moi me parle beaucoup. Et en fait, c'est ça en fait. La préparation c'est de découvrir des gens. Souvent en fait, je découvre par Instagram, je suis un peu les comptes, je regarde un peu ce qu'ils font, je regarde un peu les photos, je commence à échanger quelques messages, prépare un peu le terrain et tout. Et puis après le reste c'est au feeling en fait, c'est de la discussion, c'est de l'écoute, hein, vraiment de l'écoute, pas de pré-interview avant ou quoi que ce soit, mais vraiment de l'écoute, de l'écoute, de l'écoute, de l'écoute. Voilà. Il y a une question ensuite de Maëtis. Quel est ton épisode préféré du podcast cette année? Alors vraiment, je vais le dire, j'ai adoré tous les épisodes. Un épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est Alexandre Béraud sur le REDES, sur l'épuisement. J'ai beaucoup aimé quand on reprend Mehdi sur la préparation du 24 heures sur Amélie Run en début d'année, que ça soit si je prends toute la liste, y a pas d'épisode que je n'ai pas aimé et tous les invités en fait m'ont appris quelque chose, m'ont permis d'avoir un nouvel éclairage, des nouveaux trucs et tout. Il y a deux épisodes quand même qui ressortent pour moi, c'est le 24 heures. Déjà parce que c'était le projet en tant que tel du 24 heures et puis aussi parce que le 24 heures en lui-même, c'est d'avoir enregistré en courant. Et en fait, quand je dis que je cours et que je parle dans mon micro et tout, j'avais déjà fait des épisodes en courant, mais documenter comme ça, de prendre du point de départ jusqu'à l'arrivée, de raconter tout ce qui s'est passé pendant ce 24 heures de que vous entendiez les des personnes, certaines discussions, et puis Jean-Claude à la fin, mon vieillard galopant. Cet épisode, puis avec Monsieur Récup, et ça aussi je pourrais dire Monsieur Récup, qui était une chouette rencontre, d'abord dans le podcast, et puis physique et tout, vraiment, et puis le rire, quand il massacre les gens, mais enfin, il massacre. Sur l'impression, j'ai dit, mais il me fait du bien ou il me fait du mal et tout, ça me fait rire et tout. Cet épisode enregistré pendant 24 heures, pour moi, c'est vraiment... Et puis, j'ai eu tellement de retours là-dessus. Je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de fans de cet épisode sur le vécu, sur l'émotion, surtout l'ensemble. Vraiment, c'était... Moi, j'ai pris un énorme kiff à le faire. Parce que d'enregistrer ça, des fois, au plein milieu de la nuit, là, que je dis, est-ce que je vais passer ce truc-là, est-ce que je vais faire ça, comment je vais faire ça, et puis d'enregistrer ces petits fragments et tout au fur et à mesure, et puis de monter cet épisode-là, c'était un tel plaisir et tout, vraiment un tel bonheur. C'est vraiment un épisode qui pour moi qui est marquant, qui me donne envie d'ailleurs de refaire ce genre d'épisode-là, mais tous les défis, tous les projets ne s'y prêtent pas en fait. Mais en tout cas, il y a des trucs à faire. Et puis l'autre épisode que j'ai adoré, qui est un épisode qui est pour moi aussi un peu révélateur, un peu d'un truc que j'aimerais beaucoup faire, c'est l'ikigai du coureur, l'ikigai sportif, comment on recherche un ikigai. Parce que je pense que pourquoi nous courons, comment nous pouvons mieux courir, comment nous remplissons nos fameux réservoirs de confiance, etc., fait partie en fait d'un élément qui est important sur la motivation, sur les défis, sur comment on devient champion du monde de notre monde en fait. Et voilà, c'est vraiment un épisode J'ai passé un petit peu de temps en préparation. Quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, ouais, cette idée-là, elle me semble bien et tout. Et puis, ça m'a demandé un peu de temps de préparation, mais j'adorais le résultat, j'adorais en fait le format de cet épisode. J'ai adoré les retours que j'ai eu sur cet épisode. Et puis, je pense qu'en fait, c'est un épisode qui me sert moi beaucoup pour aller sur la philosophie que j'ai moi, la philosophie que je voudrais vous transmettre, et puis aussi sur l'accompagnement en fait. Sur quand on fait, par exemple, l'accompagnement sur la préparation mentale, sur du coaching, il y a un petit entretien sur la motivation et tout. Et souvent, en fait, l'un des points que je cible, c'est que la motivation, elle s'effrite aussi beaucoup parce que cette notion du pourquoi je cours, comment je peux le faire et tout, elle est des fois un petit peu perdue, des fois ça change et tout. Et on en revient souvent sur sa notion d'ikigai, en fait, de dire, bah tiens, on pourrait trouver notre ikigai de sportif, de qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait envie et tout. Voilà, c'est mes épisodes préférés. Et puis une dernière question sur le podcast qui a été posée, c'est combien gagnes-tu par mois avec tes podcasts ? Et la réponse, elle est très variable, mais je vais être très franco avec vous. Il y a eu des mois à zéro. Il y a eu des mois à pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a un mois, je crois que j'ai facturé 170 euros de publicité. Et le mois le plus faible qu'il pourrait y avoir, c'est zéro. Donc après, il y a eu des mois à 150, 170, 200, 300 euros. Enfin voilà, des tout petits mois. Et puis, il y a eu à côté de ça des mois à 4200 euros de chiffre d'affaires. Alors, je dis bien à 4200 euros de chiffre d'affaires. C'est pas ce qui rentre dans ma poche à la fin, bien entendu. Mais ces mois-là, forcément, ça fait plaisir. Et s'il y avait que des mois à 4200 euros, la sérénité dont je parlais tout à l'heure, elle serait beaucoup plus facile à trouver. Ça, c'est sûr. Mais globalement, en fait, des mois à 4200 euros, il n'y en a pas tant que ça. Et globalement, je vous donne le chiffre, comme ça vous le savez, il y a eu à peu près 14 000 euros de publicité sur le podcast. Enfin, sur Kilomètre 42, sur Sport Nutrition, ça chiffre 14 000 euros de publicité sur l'année. Bien sûr, quand on prend ces 14 000 et qu'on se dit c'est du chiffre d'affaires, alors c'est du chiffre d'affaires hors taxe, hein, hors TVA, quand on le rapporte sur l'année, quand on enlève les taxes, quand on enlève les charges, quand on enlève la mutuelle et tout pour payer le salaire, bah en fait, vous comprenez bien que ça ne fait pas un salaire. C'est 14 000 euros, c'est pas un salaire. Pour donner un ordre d'idée, hein, pour payer un SMIC, faudrait faire le double, en fait, voilà. Donc c'est pour ça que le podcast, pour l'instant, n'est pas je peux pas vivre du podcast à 100%. Il y a des mois où oui, il y a eu des mois. L'an dernier, par exemple, dans mon bilan de l'année dernière, j'ai fait un petit peu plus de publicité. Et puis j'ai eu une fin d'année où j'ai eu plus de sponsoring. Et ça me payait, mon salaire de la fin d'année avait été payé à 100% par la publicité. Et cette année, en fait, donc j'étais très content sur la fin de l'année dernière. Le dernier trimestre, vraiment très content. J'ai dit, bah si 2022 se passe de la même manière, ça sera super cool, quoi. Ça sera vraiment la sérénité et tout. Et en fait, pendant plus de 6 mois, il n'y a pas eu de gros annonceurs. Il y avait une grande marque, une grande enseigne de sport qui était en discussion et tout, ça s'est jamais signé. Une autre marque, ça n'a pas signé, tout. Enfin voilà, des démarchages pour avoir des sponsors, d'autres sponsors, toutes les portes qui claquaient, pas eu de réponse ou quoi que ce soit. Et je me suis retrouvé avec des mois où il y avait zéro publicité, quoi, sur le podcast. Et donc dans ce cas-là, en fait, il y a aucune sérénité potentielle. Ça remet en cause tout le truc, quoi. Donc c'est pour ça que vous comprenez ma réponse de début un petit peu dans mon bilan. Ce chiffre-là paraît important. Hein, il est pas négligeable. Mais pour vivre à 100%, c'est pas possible. Voilà. Mais par contre, si vous voulez créer un podcast. Et si vous voulez en tout cas compléter vos revenus au départ, l'avoir en autre activité et vous dire est-ce que je peux gagner de l'argent avec, la réponse est oui, on peut gagner de l'argent avec le podcast. Et c'est pour ça, c'est d'ailleurs, je fais de l'accompagnement en podcast, en podcasting, en création de podcast, en lancement de podcast, en génération d'images, visibilité autour du podcast, etc. Et donc en génération de publicité aussi pour le podcast. Ça fait partie aussi de mes casquettes pro qui font que en fait ces coachings de podcasteurs font aussi, ce qui permet de compléter le fait qu'il n'y a pas assez de publicité pour vivre à 100% du podcast, ou pas assez encore de coaching, sport, etc. Voilà, bah ça c'était les questions sur le podcast auxquelles j'ai fini de répondre. Ensuite, j'ai eu une dernière série de questions sur mes projets, sur un peu ce que j'ai fait cette année, sur ce que je veux faire l'an prochain. Alors, commençons par une question de Trailer76. Qu'as-tu appris lors de cette année 2022? Plein de choses, mais celle qui t'a le plus marqué. La réponse, Trailer76, c'est que je suis capable de bien plus de faire des choses que je ne pensais le faire. En fait, je me sens pas, même quand je commence le 496 challenge, une grande question que je me pose, c'est de me dire à quel moment, en fait, je vais passer un truc qui est outre mes compétences. Et en fait, j'ai mis de la méthode. Et en mettant de la méthode, je me suis rendu compte que c'est passé. Ça m'a donné beaucoup de confiance. Et beaucoup de confiance aussi pour préparer le 24 heures. Et là encore, je me suis dit, mais 24 heures, ça me paraît énormément long et tout. Je m'étais mis le défi de courir à 144 km. Et pour mettre un peu de pression sur l'entraînement et tout. Et je me dis, mais c'est tellement long et tout. Mais comment je vais faire ça? Et puis finalement, en fait, avec de la méthode, ça passe. Et ça, c'est vraiment le truc, en fait. C'est que ce qui m'a le plus marqué, ce que j'ai le plus appris, c'est que je suis capable de faire bien plus que je ne pensais, à condition de le faire avec méthode, en posant des jalons et en avançant pas après pas. Et ça, c'est mon mode de fonctionnement qui est vraiment important. J'ai beaucoup travaillé sur la compréhension de mon mode de fonctionnement, parce que dans les moments où d'énergie basse et tout, je me dis mais qu'est-ce qui va pas, comment je pourrais faire autrement les choses, etc. Donc je me suis posé beaucoup de questions sur mon fonctionnement, les fameux tests MBTI et tout. Et vraiment, c'est l'importance des méthodes et d'avancer pas après pas et de poser des jalons pour vérifier que j'avance dans le bon sens, etc. Ça, c'est vraiment ce que j'ai appris le plus cette année. Maria Laura, que garderais-tu de 2022 pour le garder sur 2023? Alors, j'en ai parlé un petit peu dans mon fameuse histoire de réservoir au départ et tout, dans mon bilan. Ce que je garde, forcément, c'est la course quotidienne, hein, ça ne s'arrête pas. Là, j'ai fait 520 jours de course, je suis en train de me dire, bah tiens, dans 140 jours et quelques, il y aura le 666e jour, qu'est-ce que je peux faire ce jour-là? Alors, il y a des espèces de défis qui sont en train de se mettre en place dans ma tête. Je me dis, pour faire du 666, ou alors pour faire un 60 km de vélo, 6 km de course, enfin voilà, il peut y avoir une espèce de truc comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de qui germe et tout. Mais la course quotidienne, c'est sûr que ça va rester. C'est le gros changement tant sur l'organisation, sur ma gestion de mon corps, sur ma gestion de mon énergie. J'ai besoin de ça en fait. Et je me rends compte aussi sur ma sciatique et mes hernies qu'à chaque fois, elles se sont déclenchées sur des périodes où j'avais diminué mon volume d'activité. Volume d'activité, course et marche réunis et où je passais plus de temps sur ma chaise. Je suis pas fait pour rester assis trop longtemps a priori. D'où d'ailleurs le bureau debout, d'où d'ailleurs la marche, d'où d'ailleurs les coachings en marchant, les messages en marchant, etc. Et la course quotidienne. Donc ça, je vais le garder. C'est vraiment un aspect qui est vraiment pour moi extrêmement important. Et puis l'autre truc que je vais garder vraiment sur 2022, c'est le Hamsters Running Club, le développement du Hamsters Running Club. Les discussions, les échanges qu'il y a autour du Hamsters Running Club, ça c'est vraiment l'amplification du Hamsters Running Club. Et notamment, je le dis, c'est que sur la partie publicitaire, hein, pour diminuer la pression sur la publicité et le besoin de publicité, le truc qui compense, c'est la vente de coaching, mais aussi la vente de l'accès de formation et notamment la partie privée du Hamsters Running Club que je vais développer plus, mais qui me permettent dedans, je vais rajouter des programmes d'entraînement, des petits plans, plus de vidéos techniques, plus de vidéos sur des questions, des réponses, etc. Pour que, en fait, ça soit une source de revenus et j'ai envie de dire qu'en fait, que tous les uns et les autres, vous contribuez à l'équilibre, hein, pour ceux qui le veulent, à l'équilibre, et qu'en échange, ben, je vous aide à progresser en course, je vous aide à devenir champion et championne du monde de votre monde. Voilà, c'est le deal, en fait, qu'on passe ensemble. Le deal, il est là. Voilà. Alors après, pour certains, certains achètent des t-shirts, parce qu'il y a la boutique, certains financent le podcast par le biais de Patreon, et par le biais de la partie payante du Hamsters Running Club, et puis certains, vous le faites en écoutant la publicité. Voilà, c'est les différents degrés de niveau, etc. Sachant que quand vous payez pour le Hamsters Running Club, en fait, vous n'avez plus la publicité puisque vous avez un flux, un nouveau flux spécialement pour vous, dans lequel il y a tous les épisodes en avance et sans la pub. Voilà, il y a juste, je dis, bah là, il y a les coupures pub, et au lieu qu'il y ait une pub, il n'y a rien, ça repart, et hop, et vous n'avez pas la pub. C'est logique, en fait, hein, c'est totalement logique. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, Xavito m'a posé une question. Marathon pour tous, tu crois qu'on aura un dossard? tu penses quoi du parcours? Alors, moi, je crois qu'on aura un dossard. Mais en fait, ça ne dépend pas de moi. Et là, je vais reprendre en fait une citation que j'ai vue une conférence de Marion-Laure Blanchet, que j'ai eu en invité l'an dernier, sur qui est préparatrice mentale, et qui disait, en fait, ce qui est très difficile à comprendre pour les champions et tout, mais que tout le monde doit comprendre, c'est que le résultat ne nous appartient pas. En fait, ce qui nous appartient, ce sont tous les efforts que l'on fait, mais dans ce domaine-là, le résultat ne nous appartient pas. Parce que là, en fait, ça dépend des tirages au sort, ça dépend des autres personnes qui participent au challenge, etc. Ça dépend de plein de choses. Donc, moi, j'y crois fort, mais ça ne dépend pas de moi. Est-ce que je serai au départ de ce marathon? Moi, j'ai fait tous les efforts qu'il fallait pour le faire. J'ai fait le maximum pour l'avoir, et je fais le maximum pour que nous l'ayons tous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, tous mes points pour le marathon de Paris, pour le marathon, marathon pour tous, donc pour ceux qui savent pas, c'est le marathon des Jeux Olympiques, hein, qui est ouvert à tout le monde. J'ai tous mes points et je fais tous les challenges. Mais quand je dis que j'ai tous mes points, il faudrait 5000 points, j'en ai 200 et quelques mille. Donc là-dessus, c'est fait. Les challenges, il y a des challenges toutes les mois et tout. Je participe à tous les challenges. Pendant le 24 heures, par exemple, il fallait courir deux semi-marathons. Enfin, pendant la préparation du 24 heures, j'avais dit, il y avait un truc qui m'était arrivé. Il y avait deux semis à courir en 15 jours et je m'en suis rendu compte. Juste après avoir couru le premier semi, je me suis rendu compte que je m'étais pas inscrit au challenge et donc il a fallu que je m'inscrive au challenge. Il y a eu une semaine là où il y avait, on pouvait, tous les jours, il y avait un nouveau dossard en courant, à condition de courir 7 km. Donc j'ai couru tous les jours 7 km pour essayer d'avoir le dossard. Enfin, tous les trucs que je fais, je peux. Et là où je dis que j'ai fait le maximum pour nous ayant tous, c'est que dans le Hamster Running Club, il y a une section dans laquelle il y a une rubrique spécifique pour le marathon pour tous, dans laquelle je repartage les challenges, on s'entraide, on dit où on en est, quels sont les points, comment on en est. Par exemple, là, dans cette dernière semaine du mois de décembre, il y a un challenge où il faut courir 2 heures dans la semaine. Et ben, on s'entraide, on se dit, bah, tiens, où on en est, etc. Moi, j'en suis à 75%, moi, d'autres sont à 60% et tout. Et pour que tout le monde s'inscrive au challenge, moi, je les remets, je dis, bah, tiens, il y a tel challenge, pense à vous inscrire, on peut partager les points, j'ai donné une astuce pour avoir plus de points, j'ai fait des petites des explications aussi sur comment ça fonctionne, etc. Donc, c'est un projet commun, en fait, du Hamster Running Club, que nous soyons tous au Marathon pour tous. Et en fait, j'ai un peu dans mon idée, ça serait qu'on soit le plus grand club le plus représenté, soit le Hamster Running Club, et qu'on fasse un grand congrès des hamsters pour le Marathon pour tous. Voilà, ça, c'est tout ce que je fais, c'est ce qui dépend de moi, en fait, c'est-à-dire de faire les challenges, marquer les points, vous aider à le faire de même, etc. Ça dépend de moi. Le reste, tirage au sort des dossards, le fait que les autres personnes participent et tout ne dépend pas de moi. Donc, pour l'instant, je me concentre là-dessus. Maintenant, pour rapport à ta réponse, à ta question du parcours, je ne m'intéresse pas au parcours, parce que comme je ne sais pas si j'y vais, c'est pas une question qui m'intéresse, en fait. C'est-à-dire que je m'intéresserai au parcours le moment où je sais que j'ai le dossard. Tant que je n'ai pas le dossard, je m'intéresse pas au parcours. À quoi bon? Alors, bien sûr, j'ai vu certains, quand ils ont annoncé le parcours, ont fait des vidéos pour décrypter en disant, alors là, le parcours, il y a une montée, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Moi, je suis pas là-dedans, en fait. C'est-à-dire que moi, mon énergie, elle est focalisée sur ce que je peux maîtriser maintenant, sur ce que je peux faire maintenant, et sur quelque chose qui me sert maintenant, quoi. Vraiment maintenant. Et ça, pour l'instant, en fait, ça me sert pas, donc je me suis pas intéressé dessus. J'ai juste vu qu'il y avait une grosse cote. Certains m'ont dit, oui, trouve pas que ça ressemble à Paris-Versailles. J'ai dit, oui, mais Paris-Versailles, je me suis jamais intéressé au parcours, parce que Paris-Versailles, c'est une course qui, pour l'instant, ne m'a jamais intéressé. Donc, on reboucle un peu sur le truc. Bescaz me demande mes projets pour 2024, notamment si j'ai un nouveau défi 24 heures ou d'autres défis. Alors, là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et en fait, il y a eu plein de questions qui ont été posées, parce que comme vous suivez bien les choses et tout, vous savez un petit peu qu'il y a deux autres questions qui ont été posées, Trailer 76 et Letty Big, qui me demandaient si j'avais un projet. Il me semblait qu'il y avait un projet Gravelman, et où en es-tu de ton projet Gravel, etc. Et puis Letty Big qui me dit merci pour ton travail au passage, et merci de le dire. Et donc là, on arrive en fait sur les projets. C'est-à-dire que là, c'est la grande question qui reste. Vraiment, après, il y en aura une autre question qui restera, c'est vraiment sur les projets. Bon, J'ai gagné un dossard pour le Vulcain, qui est pas très loin de la maison, qui, historiquement, c'est un trail que j'ai déjà fait. J'avais fait le 13 km, cette année, je vais m'inscrire sur le 22 km. J'ai pas la prétention, pour l'instant. Ce qui va se passer sur cette année, c'est que j'ai décidé de ne pas d'aller sur de l'ultra pour faire de l'ultra, en fait, de dire, tiens, il y a un 48 ou il y a un 70 km, etc. Je vais m'inscrire là-dessus parce que maintenant j'ai fait 136, parce que maintenant j'ai fait 24 heures, je suis capable de faire de l'ultra et tout. En fait, je n'en ressens pas le besoin. Ce dont je ressens le besoin, c'est de retrouver ma vitesse, en fait, c'est d'aller plus vite et tout. Donc, mes grands projets, en fait, c'est retrouver ma vitesse et ma recomposition corporelle. C'est-à-dire poursuivre ma recomposition corporelle et retrouver de la vitesse. Et les deux, pour moi, sont liés. Parce que je pense qu'une grande partie de retrouver ma vitesse et développer de la vitesse passera aussi par la musculation, du renforcement, etc. Et la recomposition corporelle, c'est vraiment de développer un corps plus harmonieux, en tout cas qui me plaît plus, et pas un corps de gringalet. Donc vraiment, c'est pas péjoratif pour ceux qui... Si vous avez des problèmes de poids ou si vous êtes un peu... Il y a aucun truc péjoratif quand je dis gringalet, en fait. Moi, j'ai pas un corps de gringalet parce que je fais 80 kilos et je suis un peu lourd, je suis lourd, j'ai la structure un peu lourde, etc. Je suis descendu un peu plus bas à une époque, sur le marathon de Paris, j'étais à 78. Je fais pas une fixation sur le poids, en fait, parce que quand on a fait 107 kilos, dire qu'on en fait 27 de moins ou 25 de moins qu'à cette époque-là, dans tous les cas, le pourcentage, il est largement, largement obtenu. Ce qui m'intéresse, en fait, le plus, c'est mon taux de masse grasse. Avec certaines graisses, en fait, qui sont placées au mauvais endroit. Il y a un côté esthétique, il y a un côté santé aussi. C'est la question de savoir, en fait, les graisses accrochées sur le ventre, les graisses viscérales, les trucs comme ça qui peuvent rester, comment les faire partir, en fait. Voilà, c'est un peu ça. L'idée, c'est un peu ça. Cette recomposition corporelle, en fait, c'est de mettre un espèce de focus sur des aspects que j'ai un peu négligés ces derniers mois, qui sont du gainage, de la musculation, du renforcement du dos, du renforcement des abdos, etc., qui servent, en fait, c'est-à-dire que pour courir plus vite, il faut avoir un gainage important, il faut avoir une bonne musculation, il faut être capable. Si vous faites une séance d'accélération, vous sentez tout de suite qu'à la fin de la séance d'accélération, les abdos, ils ont travaillé. Pour être capable de lever les jambes, d'avoir plus de puissance dans les jambes, c'est la chaîne musculaire, elle est globale dans le corps. Faut les fessiers, faut les développer, faut développer le dos, faut développer plein de choses. Donc il y a vraiment un ensemble, et c'est vraiment un des défis, c'est retrouver ma vitesse, recomposition corporelle. Et donc ce qui veut dire que quand je vais choisir des courses, je ne vais pas forcément aller choisir les longues distances qui m'amèneraient à faire des grandes séances, des grandes sorties longues, faire des week-end shocks ou des choses comme ça, en fait. Si je ne vais pas aller là-dedans, dans ce sens-là, je vais plutôt aller dans des choses qui se préparent en permettant de travailler ma vitesse. Donc quand je gagne le dossard pour le Vulcain, je m'inscris plutôt sur le 22 km. Le 13, je l'avais fait une année, le 13, juste après m'être cassé le coude, j'avais beaucoup aimé le parcours, mais je me dis que cette année je peux faire le 22, et que le 22 correspond, en fait, dans mes aspirations, en fait, de mix entre passer un peu plus de temps dehors, et puis développer ma vitesse. Parce que là on est sur des distances type semi-marathon, un peu plus long parce que c'est du trail, mais on est dans ces distances-là, mais voilà. C'est dans cette histoire-là. Après, est-ce qu'il y aura, par exemple, un marathon cette année? Ça, j'en sais rien du tout. Parce que, pour l'instant, je ne l'ai pas mis dans mon programme. Ce que j'ai mis dans mon programme, j'adorerais repartir à Rennes. Et j'adorerais y aller deux fois à Rennes, en fait. Première fois pour la Piron Tour, qui est la course organisée par Piron. Et en fait, j'aimerais bien y faire un week-end et qu'on parte en famille en week-end là-haut. Pour montrer à ma fille un petit peu qui sont ces fameux Layla et Pascal dont elle entend si souvent parler à la maison, ce miel dont elle se délecte parce que elle adore le miel, ce nougat qu'elle adore et tout, d'où ça vient et tout, montrer aussi la beauté de la forêt que j'ai découvert un peu la lisière et tout, mais j'ai envie d'aller courir là-bas et puis parce que j'ai vu aussi tout ce qu'ils font pour organiser cette course-là, donc j'ai envie de découvrir ça. Quand j'étais pour 24 heures, la veille du 24 heures, ils faisaient une réunion avec les bénévoles sur l'organisation et tout. Et là, vraiment, ça donnait envie d'y aller. Voilà, ça donnait envie d'y être. Donc, j'aimerais enchaîner le Vulcain, puis la Piron Tour. je parle de Rennes, je reparle de Rennes, je sais pas après, mais ça dépend pas que de moi cette histoire-là, mais j'ai lancé une idée dans l'Amsterdam Running Club, c'est de dire que si Mehdi recommence le 24 heures, qui est à côté de Rennes, j'aimerais bien qu'on y amène une équipe de hamsters, une ou deux équipes de hamsters, avec ceux qui voudraient courir le 24 heures tout seul, et puis ceux qui voudraient découvrir le 24 heures en courant, en relais, en équipe, en fait. Et dans ce cas-là, en fait, c'est quand j'ai commencé à lancer l'idée, donc il y a une rubrique qui va se lancer dans le Hamster Running Club pour dire bah qui est partant. Il y a plein de gens qui étaient partants et plein de hamsters partants. Et ça, j'en suis assez content. Et pour dire bah il y en a, on peut peut-être faire par exemple ceux qui feront un relais de 4. Voilà. Et on pourrait donc il y en a qui voudraient le faire de manière lente, normale, et puis d'autres qui voudraient le faire en challengeant un peu la vitesse. Et puis peut-être certains voudraient faire 24 heures quoi. Donc avoir une équipe de hamsters, une belle équipe de hamsters à Ermeland, au 24 heures d'Ermeland. Donc et bon là ça Mehdi l'a pas annoncé qu'il refaisait, donc ça dépend si Mehdi refait ou pas. Mais en tout cas voilà, ça ferait partie des projets 2023. Mais voyez cette notion de communauté, de groupe et tout là, elle est en train de remonter. Et puis il reste un truc que je dois vous annoncer. Parce qu'on a quand même parlé de vélo, on a quand même parlé de gravel, quand même parlé de beaucoup de choses. J'ai une surprise hallucinante, incroyable, sous le sapin de Noël. Et je voudrais vous remercier parce que là vraiment, je m'y attendais vraiment pas du tout. Il y avait une petite enveloppe avec un petit message. Et pour m'aider en fait à faire ce gravelman, ce fameux gravelman dont je parle, et j'ai eu Steven Larry qui l'organise et tout, et en fait sur l'enveloppe et tout, et un chouette message et tout, et en fait vous êtes un bon nombre, vous êtes cotisé pour m'aider en fait à pouvoir m'acheter mon vélo et tout tout ce qui va avec. Et donc ce qui veut dire que officiellement ça rajoute le gravelman de manière officielle à l'intérieur de ma programmation de l'année. Vraiment quand j'ai vu le message, j'avais les larmes aux yeux. Et vous voyez que là, tout de suite, en fait, j'ai émotion, elle est forte, en fait. Elle est vraiment très forte. J'en ai les poils, mais j'en ai c'est tout de suite dans la voix, vous avez, enfin, voilà, quoi. C'est un truc de dingue. Juste un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Je sais pas quoi dire d'autre, en fait. Donc ceux qui ont participé à la cagnotte vont se reconnaître, et puis je ferai des messages, j'ai pas la liste complète et tout, enfin j'ai un bout de la liste, mais j'attends que la cagnotte soit terminée et puis d'avoir le vélo et puis partager tout ça. Mais vraiment merci beaucoup quoi, enfin vraiment merci quoi, c'était une surprise incroyable. Et vous voyez dans les rencontres, des fameuses rencontres dont je parlais, des rencontres du Hamster Running Club, des rencontres en coaching, des rencontres de patrons, des rencontres du 24 heures, de plein de rencontres. Et en fait, quand je regarde la liste, en fait, ben c'est ses plus belles rencontres. Voilà. Donc, ce qui veut dire que oui, pour répondre aux questions, il y aura bien un Graveman cette année. Parce qu'en fait, déjà matériellement, c'est-à-dire que je vais pouvoir investir sur ce fameux vélo et ce fameux gravel, et en plus ça me donne une force, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point en fait. C'est-à-dire que le se sentir ce soutien comme ça, ça me donne une force juste énorme, et se dire on va tous y aller d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que dans ma tête, le gravelman en lui-même n'est pas choisi, parce que maintenant il faut quand même, je pars à zéro en vélo, mais il y a l'idée de documenter tout ça. Donc le podcast Kilomètre 350 va pouvoir démarrer avec un peu comme j'ai commencé Kilomètre 42 un jour en fait, c'est-à-dire dire voilà, j'ai un projet, comment je le prépare, qu'est-ce que je découvre, sachant que dans la partie vélo, il y a une partie technique qui est beaucoup plus importante, il y a de nouveaux apprentissages et tout. Je vais essayer pas après pas, coup de pédale après coup de pédale, en fait, de vous expliquer mes préparations, les doutes, les questions, d'aller chercher des invités, de discuter, d'avoir tous ces trucs-là. Tout ça, de tout documenter. De documenter aussi l'intérieur du Gravelman, probablement, comme j'avais fait pour le 24 heures cette année. Et vous voyez pourquoi je disais le 24 heures, épisode du 24 heures, inside 24 heures a été très important, mais j'espère qu'il y aura un inside Gravelman. Et en tout cas, moi, je pars dans cette idée-là, en fait, de voir un inside Gravelman sur les 350 km du Gravelman. C'est ça, en fait. Ça sera un peu l'idée. Alors, si vous savez pas trop Gravelman et un peu, pour savoir un peu la genèse, faut écouter l'épisode avec Steven Le Lyric. Mais c'est vrai que 350 km de vélo, quand on fait pas du tout de vélo, ça paraît un peu énorme, comme ça, sur une journée, mais, sur 24 heures, ou je sais pas combien de temps, je mettrai, mais, en tout cas, c'est le défi. Et puis, ce qui j'imagine derrière, en fait, c'est de dire, bah, tiens, ce vélo, il faudra lui donner un nom, quel nom on va lui donner, quelle préparation, qu'est-ce qu'on va faire autour et tout. Enfin, voilà, tout ça. Et de cette force, en fait, que vous me donnez, en fait, avec ça. Je suis très ému, franchement, quand j'ai vu déjà le message, et puis que j'ai vu le montant de la cagnotte et tout, j'ai dit waouh, c'est totalement dingue. Et au moment de, vous voyez, quand j'ai fait mon bilan et tout, je parlais de discussion, je parlais de tout ça et tout, ça m'a juste renforcé, en fait, dans le fait que je suis au bon endroit, en fait. Et c'est cette fameuse citation de Rich Roll que j'ai beaucoup en tête, que j'ai fait partie, en fait, des personnes qui m'inspirent beaucoup, Rich Roll et tout. Et en fait, il finit sa biographie en disant fais le bien autour de toi et dis-toi que tu es au bon endroit, en fait. Et je vous donne pas la citation précise complète parce que j'ai pas pris sous les yeux, mais c'est la citation, c'est cet esprit-là, en fait. Et ce geste-là que vous avez fait pour moi me le prouve juste, en fait. Que, en fait, ce que je fais, en fait, compte pour vous. Et ça me fait tellement chaud au cœur. Enfin, je sais pas trop comment vous dire, en fait. C'est beaucoup plus fort que ça. Donc, merci beaucoup, déjà, pour tout ça. Merci beaucoup pour cette belle année. Et merci beaucoup, tous ceux qui ont participé, mais tous ceux aussi qui accompagnent, qui vous m'accompagnez par vos messages, par vos encouragements, par votre présence, même un like sur une photo, hein, fait partie, par tout ça, quoi. Et un petit commentaire sur le... sans oublier les petits commentaires sur Apple Podcasts, les notes sur Spotify et tout. Et puis, je vais finir par la dernière question d'Alex, qui se reconnaîtra parce qu'il est pour quelque chose là-dedans, qui me dit « Maintenant que l'année est presque achevée, que dirais-tu au Bertrand du 31-12-2021 ?» Et il y a une réponse, je crois, je dirais « Crois en toi et fonce, pas après pas. » C'est le seul conseil, je pense, tu vois, Alex, si je devais te donner à Bertrand il y a un an, du 31-12-2021, je lui dirais « Crois en toi et fonce, pas après pas. » C'est pourquoi, en fait, ça résume tout. Parce que des fois, en fait, on se lance pas dans des projets en se disant qu'on n'en est pas capable, que c'est pas pour nous, qu'on n'est pas capable de le faire. Et l'histoire de Kilomètre 42, elle a commencé comme ça. Elle a commencé par le fait de me dire « Je me lance dans un défi de courir un marathon, mais en fait, je m'en sens pas capable. Ça me paraît trop gros. » Et cette année, en fait, quand je commence le 496 Challenge, je me dis quand même, la dernière semaine, 175 bornes. je l'ai même pas regardé, en fait. J'ai dit, ouais, je vais d'abord faire le jour 1, puis jour 2, puis jour 3, puis je vais découper en petits morceaux et tout. Et pas après pas, en fait, ça s'est construit. Et puis le jour, le 31 janvier de l'an 2022, là, quand je suis arrivé au sommet de la petite montagne en ayant fait 31 km, en ayant fait mon petit pèlerinage sur les lieux où j'avais grandi, où j'avais fait un peu de sport et tout, j'ai dit waouh, ça, pas après pas, ça c'est fait. Et sur le 24 heures, c'était exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, je tourne autour de ce truc-là, je dis, mais je m'en sens pas capable. Est-ce que je suis capable de le faire? Je m'en sens pas capable. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la préparation, pas après pas, en posant petit à petit, chaque jour un peu mes trucs et tout, ça, j'avance. Il y a des moments où j'ai des doutes, ce que j'appelle le fameux moret de l'angoisse, puis il y a des moments, en fait, où j'ai l'impression de voler. Et lors du 24 heures, ça a été ça aussi. Il y a des moments où j'ai des doutes, dans les premières heures, je me dis, oh, il fait chaud, c'est long. Et puis la nuit commence à arriver, et puis d'un coup je vole. Je me mets à voler, c'est là où je commence à courir le plus vite. Et puis dans la nuit, dans au creux de la nuit, d'un coup je me dis, mais la barrière des 100 km, elle me paraît loin. Alors j'étais 96, 97 km, je me dis, mais elle paraît tellement loin. Et puis d'un coup je la passe, et puis après d'un coup, ça s'arrête un peu, et puis ça repart, et puis ça remonte. Et le kilométrage, il augmente. Et en fait, le truc, c'est le pas après pas, en fait, qui est important. C'est-à-dire que on peut faire des grandes choses, mais on peut pas le faire d'un coup. Quand on commence à zéro, quelque chose, on peut pas tout d'un coup dire, je n'ai jamais couru, je vais courir un marathon, ou je vais faire l'UTMB, ou faire des canals des fous, ou je vais faire un Ironman ou quoi que ce soit. Mais par contre, on peut aller vers ça en posant les objectifs, les jalons, et en posant deux formes d'objectifs, le résultat qu'on veut atteindre et les moyens qu'on se donne pour le faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup en préparation mentale. Vraiment, est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle les objectifs vraiment d'atteindre d'un résultat, ou est-ce qu'on est dans les objectifs de tâches, de moyens, de ce qu'on fait au quotidien pour arriver à le faire. Et le pas après pas, en fait, c'est ça. C'est les habitudes. Le quotidien, qu'est-ce qu'au quotidien je fais pour avancer vers ces objectifs-là? Et en avançant chaque jour un petit peu vers ces objectifs-là, en fait, ça renforce la croyance que c'est possible de le faire. C'est ce qui s'est passé, en fait, sur le 496. Il y a eu des jours où je me dis, mais je vais jamais y arriver. Et puis, en fait, il y a des jours où je vole. Sur le 24 heures, il y a des jours où je me dis, je vais pas y arriver. Et puis, il y a un moment où ça avance. Et puis, ça avance encore mieux. Et puis même dans la course quotidienne, il y a des jours où j'ai mal au dos, j'ai ma sciatique, ça me lance, où je fais 100 mètres et ça me fait mal, et puis petit à petit ça repart, et puis 2-3 jours après, en fait, en mettant un peu de course, en mettant un peu de volume, en bougeant un peu plus, je me rends compte que j'arrive à lutter contre cette hernie, que j'arrive à lutter contre la douleur de la sciatique, que j'arrive à me dire le message, et me dire oui, je t'écoute, mon corps, je t'écoute, mon cerveau, je fais attention, mais oui, je fais attention, mais je dois avancer. Et je dois avancer. Et c'est exactement ça, en fait. Le conseil que je me serais donné, c'est crois en toi et fonce, mais pas après pas. En fait, j'ai beaucoup parlé cette année de Memento Mori. Memento Mori, c'est souviens-toi que tu vas mourir. Et il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai fait des petits dessins avec Memento Mori en me demandant, par exemple... combien de Noël il restait pour que Camille, ma fille, qui a 5 ans dans quelques jours, encore combien d'années croirait vraiment au Père Noël? Combien d'années il me restait à passer, qu'on fasse un Noël tous les trois avec ma femme et ma fille, à la maison, je veux dire, parce qu'à partir d'un certain âge, on peut dire, les enfants, ils vont vivre leur vie, ils vont partir à droite à gauche, etc. Mais ces Noëls avec des enfants à la maison et tout, combien de temps il en reste? Combien de temps il me reste à vivre des Noëls avec ma maman? Combien de temps il me reste de Noël à vivre avec telle personne de la famille, avec ma sœur et tout? Et puis, j'en suis aussi à faire mes croix. Combien de temps il me reste à pouvoir marathon, faire tel cours, faire tel truc, etc. Et pour revenir sur le marathon pour tous, par exemple, marathon de Paris, j'ai fait une seule croix. Il y a une seule croix, en fait. Il n'y a qu'une seule possibilité pour moi, selon moi, de courir le marathon olympique, qui sera le marathon pour tous. Peut-être que d'autres villes le feront, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne reverrai jamais dans ma vie des Jeux Olympiques à Paris, des Jeux Olympiques d'été qu'un marathon. Et donc, c'est pour ça que je mets autant d'énergie pour faire ce marathon, avoir le dossard pour ce marathon, et que vous puissiez vous aussi le participer et vous expliquer, dans le Hamster Running Club notamment, comment participer à ce marathon, comment gagner des points, les challenges, ne pas louper les challenges, mais ça sera le challenge, etc. Parce que c'est comme ça. Et de même, en fait, quand je regarde un petit peu les différents projets que je peux avoir, combien d'occasions il me reste à courir tel truc, telle chose, etc. Il y a des courses, en fait. Par exemple, je disais le marathon de New York qui me ferait rêver. Ben, potentiellement, quand je regarde ma vie, je me dis combien il m'en reste. Est-ce qu'il me reste 15 chances, 20 chances de le faire? Je sais pas. Mais quand il y a une chance qui se présente, eh ben, il faut croire que c'est possible de la saisir, de foncer pour le faire. Et puis, de se dire que ça se prépare, que même si ça nous paraît énorme, énormissime, eh ben, ça peut se faire pas après pas. Et donc, c'est tout ce que j'ai appris vraiment ces dernières années. C'est tout ce que je veux vous transmettre. C'est tout ce que je veux vous dire, en fait, finalement. Ce que moi, j'aurais aimé entendre. Avoir un mot comme ça sous le sapin, mais un petit mot en me disant, bah, tiens, voici cette année-là, le conseil que tu dois suivre. J'aurais aimé avoir ce genre de conseil-là. Et c'est le conseil que je me donne, c'est le conseil que je vais vous donner, mais c'est d'abord le conseil que je me donne à moi-même là-dessus et que je vais faire pour, je vais m'appliquer pour le Gravelman, en fait. C'est, crois en toi, c'est possible de le faire. Tu pars de loin, mais c'est possible de le faire. Fonce, prépare-le à fond, mais pas après pas. Et c'est exactement comme ça que Kilomètre 42 va poursuivre sur 2023, que Sport et Nutrition va poursuivre sur 2023, et que probablement Kilomètre 150, le podcast qui parlera de vélo, parlera de gravel, je vous en parlerai aussi dans Kilomètre 42, bien sûr, mais j'en parlerai plus dans Kilomètre 150, va aussi raconter tout ça, et comment, en fait, petit à petit, je vais rajouter d'autres sports, d'autres activités, et y croire. Croire en moi, croire que c'est possible, foncer pas après pas. Voilà, cet épisode se termine sur cette note très émouvante quand je repense à ce petit message, à ce mot, à ce cadeau que vous me faites de pouvoir croire que je peux le faire, que c'est possible. Croire aussi que c'est possible d'être champion du monde de mon monde en faisant que du podcast et de l'accompagnement, du coaching, etc. Que je peux vivre de ça, que je suis pas obligé d'aller retrouver un boulot salarié comme j'avais une époque qui me plaisait pas. Parce que peut-être, vous ne savez pas, mais il y a 11 ou 12 ans, je travaillais dans une collectivité locale et j'en suis parti sur du harcèlement moral et j'avais le moral qui était totalement détruit. Et c'est là aussi où j'ai pris beaucoup de poids, où je bougeais plus, où je n'avais plus envie de rien. J'étais même sous antidépresseur. Et je me dis, en quelques années, ma vie a totalement changé. Mais c'est beaucoup accéléré depuis que j'ai repris le sport. Et c'est beaucoup accéléré depuis que je fais Kilomètre 42. Et elle a beaucoup changé. Mon quotidien a énormément changé. Et ça va continuer à changer, en fait, comme ça. Et en fait, il faut que je croie aussi en moi sur le fait que ce soit possible que les podcasts, que cette vie créative et sportive telle que je suis en train de la construire soit vraiment possible, et c'est possible grâce à vous. Donc je voulais vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux, le meilleur pour l'année 2023, hein. J'espère que le meilleur s'est passé pour 2022, et vraiment je vous souhaite le meilleur pour 2023. Portez-vous bien, hein, comme on dit. Pour moi, le plus important, c'est probablement la santé. Nous avons tous et toutes cette volonté de devenir des vierges galopants. C'est ce qui nous réunit aussi dans ce podcast. Et vierges galopants, en fait, ça passe par ces genres de projets, devenir champion du monde de notre monde au fur et à mesure, régulièrement, avoir ses projets, faire attention à son alimentation, mais pas trop, faire du sport, peut-être pas trop, mais faire la dose qui nous convient et comment nous le faisons. Et c'est ce que je vous souhaite, le meilleur, vraiment le meilleur pour cette année qui va venir. C'est le bilan est terminé. Passez de belles fêtes si vous écoutez ce podcast avant le réveillon du nouvel an, avant le passage. Sinon, j'espère que ça s'est bien passé. Et puis, bien sûr, on se retrouve sur 2023 avec les nouveaux épisodes, avec la suite des aventures et tout autour de nos défis. Et puis avec des invités, les premiers invités. Vraiment, c'est pas encore enregistré, mais je sais déjà que ça va être vraiment sympa. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous garde la surprise. Et je vous souhaite encore une fois le meilleur pour les mois qui viennent. À vous, vos proches, vos amis, toute votre famille, tous les gens qui comptent pour vous. Et puis, dans une belle réussite dans vos projets sportifs. Et vous savez que je suis là, que l'Amsterdam Running Club est là. que la communauté autour du podcast est là pour vous accompagner, pour vous encourager, pour que nous soyons tous champions et championnes du monde de notre monde. Ciao, ciao!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.